Salut les amis, nous sommes le 20 mai 2013 et c'est parti pour ce cinquième numéro du podcast L'œil carnivore. On est de retour avec toute l'équipe comme d'habitude, et bien pour vous parler surtout de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Et pour ça, et bien on a toute l'équipe qui est là, commencé par Luc qui a pris la place de Damien.
Oui.
Je sais pas pourquoi.
Parce que c'est il y a plus de soleil ici.
c'est vrai. Pour une fois, il fait clair. Mais on a dû fermer la porte pour les petits oisillons qui faisaient bousiller l'enregistrement. Et voilà, on est des amis de la nature. Damien, comment vas-tu?
Cui.
Voilà.
Super bien l'oiseau.
Je me suis entraîné pendant des années.
En fait, on essayait de dire qu'un jour ou l'autre, on va tweeter sur ces missions en live, etc. Mais bon, en attendant, on se contentera des petits oisillons. Et puis Sylph, Seb, c'est bien. Comment tu vas?
Si vous pouviez le voir.
Eh bien justement, un jour on pourra nous voir justement aussi.
Vous me laisserez seul avec lui à la fin de l'émission.
Non. Regardez, la webcam est déjà prête là-bas. Si vous regardez en l'air, eh bien elle sera ready. Il manque plus que la connexion internet pour streamer tout ça. Bon alors les amis, vous allez parler de quoi, Luc?
Moi je vais parler de choses sérieuses et de choses moins sérieuses. Je vais parler de serious gaming et d'une adaptation pour une app donc sur l'App Store de Livre dont vous êtes le héros.
Ouais.
Quand on revient du...
C'est tout de mon enfance. Voilà. Allez à la page 42 et puis tu triches.
Et tu peux encore tricher, mais on en reparle.
C'est long. Damien ?
Alors, moi, je vais parler de l'affaire Dailymotion qui a secoué un peu la technosphère du net et... mais aussi le monde des affaires et le monde politique. Voilà, donc j'avais quelques informations, quelques idées que je pense assez intéressantes à partager avec vous. Et j'espère d'ailleurs que vous réagirez à ça sur le site internet, mais... L'œil carnivore, évidemment. Voilà, de par mon boulot, j'ai un point de vue un peu particulier sur le sujet, donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Et sinon, je vais vous parler du Puits des Mémoires, un livre d'Heroic Fantasy de Gabriel Katz. On va aussi parler, toute l'équipe va parler évidemment de la sortie, de l'annonce plutôt de la Xbox One et de la PS4. On va vous parler aussi de ce Secret World qui est un MMO qu'on a tous les trois testé.
Oh. Mais main dans la main.
C'est un secret. Et alors, il ne faudra pas le répéter aux autres. Voilà. Sylph.
Moi, je vais parler de Mama, Iron Man et The Grandmaster. Et au niveau Zik, How to Destroy Angels.
Bref, du gros programme, du lourd. On va essayer de tenir dans les 2 heures, c'est ça?
On va essayer.
Ouais. Parfait. En tout cas, on va enchaîner tout ça avec le sujet un petit peu commun à toute la rédaction, c'est-à-dire l'annonce qui a été faite de la Xbox One et la sortie à venir de la PlayStation 4. Accrochez-vous parce que le programme de la soirée est chargé. Alors, c'était quand? C'était mardi, c'est ça, que la Xbox One a été annoncée 19h heure française. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Que j'ai veillé tard pour voir de la merde.
Ah, ça me rappelle l'annonce de la PS4, sauf que j'ai pas vu la merde. Je l'ai juste senti.
Non, je déconne. C'était pour faire la vieille provoque.
Damien? Ou Luc?
Ouais. J'avoue que lorsque Sylph m'a dit « Ouais, il faut qu'on parle de la sortie de la Xbox One et de la PS4 », je lui ai dit « Pourquoi? Tout le monde en parle, quel est l'intérêt et tout ?» Au final, il a réussi à me décider d'en parler lors du podcast. C'est vrai qu'il y a quelques trucs intéressants à en dire. Et en plus, avec la liaison du sujet dont je vais parler après, c'est-à-dire l'affaire Dailymotion, il y avait moyen de dire quand même quelques trucs, surtout pour les personnes qui s'intéressent pas spécialement à l'univers des consoles, du jeu vidéo, qui se disent « Bah oui, mais moi j'en ai rien à cirer en fait de ces histoires-là, je suis pas un joueur, etc. » En fait, ça prédestine à beaucoup de changements dans la manière dont on va consommer les médias. Mais Seb, si t'as envie d'en dire...
Voilà, moi j'ai assisté à la conférence PS4 et Xbox One, en tout cas en stream sur le net. On va pas commencer à parler de puissance, de blabla, de tous les blabla habituels, du genre on peut tirer des missiles avec une PS4, enfin toutes ces stupidités-là. En fait, ce qui est intéressant à retirer de tout ça, c'est que bon, comme d'habitude, on a le droit au show dans lequel on te montre des super cinématiques de ce que l'avenir du jeu vidéo sera. Mais en parallèle à ça, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on se rend compte que surtout Microsoft et un petit peu Sony, en fait, s'orientent de plus en plus vers des machines qui sont semblables à des media centers. Qu'en fait, ils veulent, en gros, que les consoles deviennent des espèces de PC intégrés aux télévisions. C'est d'ailleurs assez notable hein, avec la Xbox One qui fonctionne sur une espèce d'ersatz de Windows 8.
Je sais pas une ersatz. D'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus, mais ça fait partie de la stratégie de Microsoft justement que tout l'univers Windows 8 soit unifié entre les consoles, les PC, leurs tablettes et leurs smartphones. Et en fait, l'idée qui est derrière, c'est à partir de là, pour les développeurs, on peut développer la même application qui sera déclinable sur toutes les plateformes. Donc déjà, on peut voir la synergie qui peut se créer entre les différents supports. Et derrière aussi, c'est le shop Microsoft va être disponible sur ces différentes plateformes. Et donc, les éditeurs ont intérêt à développer des choses pour cette plateforme, puisqu'ils savent que derrière, ils vont toucher quand même un marché qui est énorme, le PC. La tablette, malgré la relative... semi-échec de la surface. Je pense que c'est un bon produit et qu'au fur et à mesure ça va finir par quand même s'imposer. Pareil pour les smartphones, Nokia mine de rien fait le pari du Windows Phone et derrière ouais, t'as quand même la Xbox qui est quand même la deuxième grosse console, alors laquelle se vend le plus, la PS
troisième.
Oui, bon, on exclut pour l'instant Nintendo qui est pas du tout dans la même idée. Hein. Nintendo est donc vraiment dans un autre style de. Ben, je sais pas ce que t'en penses.
C'est surtout que Nintendo vend beaucoup, mais pas spécialement sur les consoles de salon.
Oui, et puis c'est pas du tout la même logique.
On parle pas des mêmes choses non plus. Hein.
Voilà, ils sont pas positionnés du tout de la même façon. Par contre, effectivement, la Sony avec la PS3 déjà avait commencé à amorcer avec le Blu-ray, avec.
D'ailleurs, beaucoup de gens avaient acheté la PlayStation 3 parce que beaucoup de gens se disaient, oui, certes c'est une console, certes elle est peut-être plus chère, mais l'intérêt au fait c'est que ça se rapproche un peu plus d'un media center, qu'on peut regarder des Blu-ray dessus.
Et beaucoup de monde disait que pour ça d'ailleurs. Hein.
Mais en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'au final, même si elle est sortie très chère, la PlayStation 3, en 2005, je crois, 2006. En fait, le proportionnellement au prix que coûtaient les Blu-ray, c'était assez rentable.
Je pense qu'une étude récente d'ailleurs prouve qu'encore que la PS3 est un des meilleurs lecteurs Blu-ray. Après, en même temps, vu l'infrastructure qu'il y a derrière pour faire tourner des jeux, c'est pas étonnant quoi.
Le meilleur lecteur Blu-ray avec une manette comme télécommande.
Ouais. Mais c'est pas. En tout cas, pour la précision par exemple de survol d'une vidéo, pourquoi pas. Mais voilà, ça, c'est un autre débat en tout cas.
Enfin bref, là où je voulais juste en revenir sur la Xbox One, c'est qu'en fait, là où je disais que la conférence était un petit peu de la merde, c'est vrai que c'est un peu de la merde pour les gamers. Dans le sens où on n'a pas vu de jeu. Ouais, on avait une super bande annonce du dernier Call of Duty.
Ouais, et puis on nous a dit qu'il y aurait FIFA 2014, c'est bien.
Voilà.
On le savait pas.
Je pense que c'est pas leur but. En fait, leur but, on voyait vraiment que la conférence était orientée non seulement pour le grand public, mais surtout pour montrer que c'était une console qui faisait plein de choses. Qu'on pouvait regarder la télévision, qu'on pouvait.
Alors attention, tout ça, c'est seulement disponible pour le moment aux États-Unis, évidemment. Hein. En Europe, toutes ces fonctions-là de lien avec notamment la NFL, avec la télévision, etc., seront pas disponible en Europe. Pour l'instant, c'est vraiment tout est fait pour le marché américain, mais il reste encore quelques mois avant la sortie, donc on ne sait pas ce qui nous réserve, mais le marché européen est beaucoup plus complexe à ce niveau-là, et ça va être difficile de lancer cette espèce de plateforme. Je reprends Google TV, où ils ont essayé de lancer ça en Europe,
TV, ça marche pas. Apple TV, c'est des exemples clairs et nets que la Belgique n'est pas prête. Quoi.
pas seulement la Belgique, l'Europe de manière générale, mais on en reparlera dans l'idée dans Dailymotion, justement.
Il est intéressant aussi de voir que Microsoft va jusqu'à produire ses propres séries maintenant. Donc ils sont en train de produire leur propre série Halo.
Ah oui, j'ai entendu ça.
Enfin, je pense qu'ils sont aidés, mais en tout cas, voilà, avec Spielberg.
Halo, quand tu dis Halo, c'est
le jeu vidéo, ouais.
La série Nabila.
La série Nabila, ouais. D'accord. Non, c'est tiré du jeu Halo, c'est ça.
La série Nabila.
Et c'est tiré du jeu Halo, donc le jeu vidéo qui est sorti il y a pas mal d'années sur la Xbox tout court. Ah, ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Hein.
Bah, ils reviennent aux sources, ce que me disait notre ami Matt qui chronique un peu jeux vidéo, c'est qu'il disait ils reviennent vraiment à la source, quoi. Que ce soit du design, que ce soit vraiment du design, mais même au niveau de l'appellation, quoi. Apple, c'est pas l'iPad 4, c'est le new iPad, c'est l'iPad, tu vois. Et donc maintenant ils reviennent, Xbox 1, c'est la Xbox.
En même temps, pourquoi ils mettent Xbox One? C'est assez intelligent parce que c'est juste pour présenter en fait le système Media Center complet avec le Kinect. C'est-à-dire commande à la voix de tout ce que tu regardes à la télévision, etc. C'est moi, je suis pas contre entre guillemets cette espèce de media center PC un peu machine à tout faire.
Juste le fait d'avoir une caméra chez soi qui nous filme 24/7.
Oui, voilà. Les infos sur internet, vous en pensez quoi, ce truc caméra et micro de la Kinect constamment allumé pour cette réaction connectée à internet.
Et Microsoft avait confirmé alors. c'est pas sûr pour la dernière génération de la console, hein, parce que toutes ces infos-là, en fait, quand on les lit sur Internet, en fait, c'est tiré de la première version du Kinect, donc on ne sait pas ce qui va réellement être fait dans la deuxième version. Mais de manière générale, a priori, effectivement, ça sera totalement connecté tous les jours, au moins une fois par jour à Internet, donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, ces infos-là sont censées être envoyées sur des serveurs pour pouvoir réinterpréter ce qu'on dit, etc., et améliorer le service, moi je veux bien. Normalement, il faut que ça soit anonyme, mais bon, après,
on sait que tout se hack,
et donc quelque part, avoir quand même une caméra et un micro dans son salon...
C'est la suite du programme Echelon.
Oui, c'est la suite du programme Echelon. Bon, sans devenir paranoïaque en dehors de ça, effectivement, tout ce hack, le fait d'avoir...
Il n'y a rien de paranoïaque avec le programme Echelon, c'est vrai. Hein.
Voilà.
Non, mais maintenant... le machin très, 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 très grave, c'est quand tu vois que Microsoft avait déposé un brevet pour pouvoir utiliser le Kinect et vérifier combien de personnes regardent le programme et empêcher la visualisation ou l'utilisation d'un programme si tu dépasses les limites d'utilisation dans le cadre familial. Oh là là, on va peut-être arrêter, quoi, tu vois, enfin, ça va pas, quoi.
Tu sais, ceci dit, là, ils ont clairement dit que le système, en fait, de validation des jeux il fallait s'enregistrer via un compte. Donc déjà, le jeu d'occasion, ils sont en train de chipoter en disant « Oui, mais si certaines entreprises payent une licence à Microsoft, ils pourront reprendre les jeux d'occasion, annuler les comptes et les machins. » Enfin, un chipotage qui a l'air d'être en prévision autour de ça, histoire d'annuler tout le marché de l'occasion parce qu'eux, ils touchaient rien dessus. Donc là, en gros, ils ont tout fait pour que, quoi qu'il arrive, dans toutes les solutions possibles et imaginables, ils toucheront du pognon même quand tu revends ton jeu.
Ouais, j'avais vu quelque chose là-dessus, ouais.
Donc ça, c'est magnifique pour la...
D'un autre côté, le jeu d'occasion a quasi disparu sur PC. Hein.
Sur PC, oui. Mais c'est pourquoi c'est parce que...
Alors que c'est une solution beaucoup plus ouverte à la base, ça devrait...
Sur PC, ça a disparu à cause du piratage.
Je pense à cause de Steam,
c'est la dématérialisation.
Vraiment en premier à cause du piratage. Mm-hmm. Parce que Steam n'existait pas encore, que déjà les gens ne rachetaient pas les jeux PC.
C'est pas récent. On se balade en pêle-mêle, on voit les dernières générations de jeux accessibles, c'est vraiment, on remonte à quelques années quand même. Alors, c'est depuis cette création de comptes, de DLC, de liens, d'App Stores parallèles, je crois. Aussi, mais qui est liée notamment à la dématérialisation et notamment elle-même liée au piratage. Parce que justement, Steam était une parade.
Avant, sur PC, en fait, moi je sais que quand tu prenais un jeu multijoueur, etc., effectivement, il fallait que tu t'enregistres sur Internet, mais les gens, quand il y avait des clés qui étaient liées au compte, qu'il fallait valider, etc., comme par exemple avec le premier Half-Life ou des trucs comme ça.
Half-Life 2, Steam. Typiquement, effectivement, tout le monde a gueulé au début d'ailleurs. Je me souviens. Et c'était le premier jeu non MMO, quelque part, non massivement multijoueur, mais qui nécessitait quand même une activation sur Internet. Ouais. Après, c'est plus ou moins heureux. On voit Ubisoft qui s'est joyeusement viandé avec ses Assassin's Creed et son activation Internet.
Ouais, mais ceci dit, il faut toujours quand même le faire. T'achètes un jeu sur Steam et tu dois quand même le valider sur leur replay. Mais tout ça, là, on sort un peu du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, Microsoft a présenté une machine sur laquelle ils ont un contrôle complet, qui n'a plus grand-chose à voir avec une console parce qu'elle ne sert plus du tout qu'à jouer. Donc ça, c'est bien parce qu'entre guillemets, pour eux en tout cas, ils vont s'adresser à un autre public. Sony a l'air d'être dans une espèce d'autre variante des choses. Ils sont pas exactement dans la même optique, mais d'ailleurs, c'est pour ça que visiblement la console, la PS4 est mieux vue.
Mieux vu et côté, en tout cas, c'est vrai que sur le web...
Déjà, tu peux jouer aux anciens jeux PS sur la PS4, je crois, alors que ça sera pas possible sur la Xbox.
Ouais. Non. La rétrocompatibilité, à mon avis, elle n'existera pas.
Elle est morte des deux côtés.
Je crois que c'est... Il y a un émulateur dans la PS4 qui permettra de jouer au PS3,
Tu comprends pas, il n'y a pas de possibilité, tu devras racheter tes jeux, en fait.
Même sur la PS4?
Mais oui.
C'est vraiment crapuleux.
En tout cas, sur la Xbox One, c'est sûr et certain.
Ils ont dit que sur la Xbox One, ils veulent voir de l'avant.
Tous les jeux PS3, en fait, seront téléchargeables en fait sur le Sony Store ou je sais pas trop quoi. Mais en gros, non, tu pourras pas prendre ton vieux Blu-ray PS3 et le mettre sur ta PS4, ça marchera pas.
Ou alors ils vont faire payer
un forfait ou je sais pas quoi. Non, c'est d'ailleurs relativement pas possible parce que les architectures des deux machines n'ont rien à voir.
Oui, donc c'est pour ça que j'ai parlé d'émulateur, mais je pensais que c'était possible, mais bon, voilà.
Bon, après, on verra, parce qu'il y a encore plein d'éléments et des clés qui vont arriver à l'E3, notamment. C'est dit des deux côtés des conférences, parce que forcément, on n'a même pas vu à quoi ressemble une PS4. Ils nous ont bien sorti un trailer, il n'y a pas très longtemps, assez flou, titré « Ivre, Sony essaie de filmer la PlayStation 4 », parce qu'on voyait strictement rien, c'était vraiment de la poudre aux yeux, je ne sais pas pourquoi ils font ce genre de choses.
C'est le trailer, c'est le
principe. C'est pour qu'on parle d'eux.
C'est, voilà, on en a parlé, en tout cas, c'est clair. Ils nous ont rien montré. La musique était cool, les images aussi, les effets étaient pas belles. Enfin voilà, donc à l'E3, pas mal de réponses. On reviendra sur le sujet cette année, forcément, vu que c'est la nouvelle gen de consoles qui arrive. Autre chose à dire pour conclure là-dessus ?
Ouais, ils ont pas donné de prix.
C'est vrai, on l'estime à 600 euros.
Ouais.
Sans hors abonnement, Xbox Live, etc. etc. Mais.
Belle arnaque.
600 euros, prix d'origine de la PlayStation 2 ou 3. 3 si 3, je ne m'abuse.
Ouais, hein. Ouais.
600 boules à l'époque.
Entre parenthèses, qui est le coût d'un PC moyenne gamme maintenant, je
moyenne
crois.
Moyenne gamme, t'es sûr ?
Ouais.
C'est pas d'entrée de gamme gamer ?
Ouais, peut-être entrée de gamme gamer, je sais pas, mais à mon avis, pour 600 euros, on peut choper un PC correct.
On peut faire quelque chose. Si, si t'as juste la tour à racheter, tu peux réussir à faire quelque chose à 600 euros.
Ah oui, on parle pas d'écran, etc.
Tu peux acheter une carte graphique.
Ceci.
Alors, tu peux aussi acheter juste la carte graphique, ça c'est clair.
C'est clair. Voilà. Ou deux, comme a fait notre pote. Une bloc jeu vidéo.
Je préciserai pour l'écran que quand tu achètes une console, tu n'as pas l'écran qu'il faut.
Voilà. Je n'osais pas le dire.
Quand tu achètes une Wii U.
T'as un petit écran.
Qui achète une Wii U aussi ?
C'est vrai.
Gardez
c'est vrai.
Vos sous. Hein.
Donc la Wii U, pour info, qui est sortie à plus ou moins un an, et la sortie annoncée des deux consoles Xbox One ou PlayStation 4 est annoncée d'ici octobre fin d'année 2013. Donc plus ou moins en même temps pour les fêtes. Ce qui n'est pas étonnant finalement. Petit aparté très rapide, vous avez entendu parler de cette console Ouya ? La petite Ouya,
oui.
Eh bien, apparemment, ils vont en parler. Elle va être présente à l'E3, mais elle sera pas dans le salon de l'E3. Elle sera présentée sur un parking près du Convention Center. Donc, c'est à Las Vegas, si je ne me trompe. Non, c'est pas à Las Vegas.
Los Angeles,
voilà. Et ça va être présenté sur un petit parking sur le côté. Donc, ça vaut la peine aussi de garder un œil sur cette micro-console tournant sur un pseudo-Android, machin, etc.
Il y aura Jack Bowers.
Des débuts difficiles. Hein.
Ouais, c'est clair. Mais voilà, l'initiative est assez intéressante pour en parler. Bon, on passe tout de suite à l'affaire Dailymotion. Et j'avoue que j'ai un peu zappé l'affaire, donc Damien, tu vas m'en apprendre pas mal juste après un petit jingle.
Avec plaisir.
On t'écoute.
Alors, Dailymotion, effectivement, bon, je pense que tout le monde en a au moins entendu parler un moment, un écho ou l'autre, surtout en France, puisque ça a même fait une affaire politique entre gauche et droite, etc. Mais ça a aussi créé toute une vague d'articles et de réactions dans le monde de l'économie. Le Financial Times, le New York Times, etc. ont titré sur cette affaire-là. Ça a aussi fait tout un mouvement dans la technosphère Internet, parce que, évidemment, voilà, attention, c'est Dailymotion, c'est quand même un des fleurons pépite, on dit, française, de start-up française.
Donc c'est en fait un peu l'équivalent de YouTube, si on veut.
Je vais définir un peu ce que c'est, mais voilà, ça a créé un peu toute une série de vagues de réactions autour de Dailymotion, de cette affaire-là. Est-ce que l'État français a le droit de se mêler ou pas d'économie ? Parce qu'au final, c'est de ça dont il est question. Alors... D'abord, je vais un peu définir qu'est-ce que Dailymotion. Alors, Dailymotion, c'est une entreprise française d'origine française,
la France,
et qui est un service d'hébergement, de partage et de visionnage de vidéos en ligne. Donc, effectivement, c'est le seul concurrent valable, plus ou moins, de YouTube. En octobre 2012, c'est le 31e site le plus fréquenté au monde, avec 116 millions de visiteurs uniques par mois et 2 milliards de vidéos vues par mois. D'accord. Alors par comparaison, quand même, parce que c'est important de le faire, YouTube, c'est en mai 2010, donc 2 ans avant, plus de 2 milliards de vidéos quotidiennes. Donc voilà, quelque part, c'est le plus gros concurrent à YouTube, mais en même temps, c'est le petit poussé à côté de l'énorme machine.
C'est utilisé hors France, en francophonie, on va dire.
Oui, oui, c'est visible dans, je crois, 31 pays différents, c'est dans plein de langues, je crois qu'il y a 16 langues différentes, etc. C'est effectivement une start-up et entreprise française, c'est tout petit, hein, à la base, mais c'est mondial. Ça veut dire que c'est utilisé de manière mondiale, aussi bien, effectivement, en Europe qu'en France, qu'en Asie, etc. Donc c'est c'est le seul concurrent valable à YouTube pour l'instant, en tout cas. En octobre 2009, l'État français s'est déjà introduit en fait, dans le capital de Dailymotion via le FSI, qui est le fonds...
supérieur d'investissement.
Effectivement, c'est un fonds qui appartient plus ou moins à l'État, dont l'État est actionnaire en tout cas, donc qui a permis de soutenir Dailymotion pour que Dailymotion puisse grossir. Et le 10 janvier 2013, Orange est devenu l'unique propriétaire de Dailymotion. En exerçant son droit d'option sur les 51% qui lui restaient à acquérir, en fait, au moment où ils ont acheté les 49%, ils avaient un droit d'option, ils l'ont fait. Et au total, l'opérateur téléphonique, télécommunication, parce que maintenant c'est plus vraiment un opérateur téléphonique, a déboursé 193 millions d'euros pour acquérir Dailymotion. Alors, je vous remets bien cette date en tête, c'est le 10 janvier 2013, donc il y a très peu de temps finalement, que Orange a racheté l'intégralité de Dailymotion. D'accord ? Donc, c'est pas pour rien quelque part. On va voir par la suite des événements. Le 19 mars, le Wall Street Journal affirme que Yahoo étudie l'hypothèse d'une prise de participation de 75% dans Dailymotion. Là, on se dit, OK, ils ont acheté pour pouvoir...
Donc, Yahoo, quoi. Le grand Yahoo.
Le grand Yahoo, voilà. Et l'opération valoriserait, je cite, la pépite française autour de 300 millions de dollars, c'est-à-dire 231 millions d'euros. Donc, bonne opération pour Orange. Hop, on achète et on peut revendre de manière correcte 75% de Dailymotion, ce qui fait qu'en gros, ça leur coûte rien d'avoir, d'avoir les 30% de Dailymotion. Si on simplifie un peu. Alors, c'est là où arrive la fameuse affaire Dailymotion. C'est-à-dire que le 30 mars, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, c'est très très drôle, moi j'aime bien
le redressement productif. Merde alors.
A convoqué Orange et Yahoo pour intervenir sur la vente. D'accord. Et en fait, lui n'est pas totalement d'accord avec le fait que Dailymotion soit vendu à 70% à Yahoo et donc 30% restait dans la main d'Orange. Il disait, c'est pas terrible, on risque de voir disparaître Dailymotion à l'intérieur de Yahoo. Il y a tout un historique d'ailleurs des startups rachetées par Yahoo. Et il préférait un rachat à 50-50, une sorte de partenariat qui permettait en fait de pouvoir espérer que Dailymotion reste en plein développement et non une coquille dont on vide sa substance. Il faut savoir aussi que cette convocation ne s'est pas faite dans la presse. C'est une convocation, évidemment, Yahoo et Orange ont été convoqués, mais de manière générale, ça n'a pas transpiré dans la presse. Le seul truc, c'est que le lendemain, Yahoo a dit que c'était inadmissible, l'a balancé au Financial Times, etc. Et donc, résultat des courses, tout le monde a su que effectivement, l'État français avait foutu son nez dans l'affaire. Alors, pourquoi ils ont mis le nez dans l'affaire ? C'est que l'État français possède 26% d'Orange, donc ça, c'est une première chose. Donc, il est actionnaire d'Orange ou quelque part, il peut dire, on n'est pas d'accord de telle ou telle stratégie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont parle Arnaud Montebourg, c'est de dire que Dailymotion, c'est stratégique pour la France. Et alors, c'est là où ça devient assez intéressant. Pourquoi un site comme Dailymotion deviendrait stratégique ? Et d'ailleurs, si c'était pas stratégique pour la France, et on va voir, pour moi, c'est même stratégique pour l'Europe. Donc, c'est d'où l'intérêt aussi d'en parler dans un podcast qui est écouté dans toute la francophonie. C'est tout simplement... Excusez-moi, j'ai mon iPad qui s'est éteint.
C'est pas un iPad d'abord.
C'est pas un iPad d'ailleurs. Voilà, c'est peu importe. Mais après, c'est pour suivre les notes de l'émission. Donc, Donc, en tout cas, Arnaud Montebourg dit, c'est stratégique. Et si c'était pas stratégique, effectivement, l'État français n'a rien à faire à se mettre le nez dans les affaires entre deux entreprises privées, quoi. Alors, juste une première chose pour rappeler aussi, Yahoo, c'est quand même 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est quand même...
Yahoo, ça va.
C'est pas un petit. Que le PDG a changé il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Marissa Mayer, qui avait passé 13 ans chez Google en tant que vice-présidente, donc c'est pas une débutante non plus, et le fait que Yahoo change de PDG et prenne quelqu'un comme ça, c'est la volonté de changer en fait la stratégie de Yahoo et de transformer cette espèce de gros monstre dormant, parce qu'on peut dire clairement que c'était un peu le cas ces dernières années.
Mais là, il rachète à tout bras. Hein.
Ouais, mais il s'oriente très fort vers le contenu, en fait. On en a parlé dans d'autres émissions, justement, c'est vraiment vers le contenu qui est aujourd'hui où la guerre se déroule sur Internet. Et oui, apparemment, elle a bien appris de Google, de ces quelques années chez Google.
Tout à fait. Et effectivement, Yahoo a des rapports privilégiés, notamment avec tout Hollywood, etc. Et donc, il y a... moi, je dis souvent, sur Internet, ce qui est important, c'est le contenu. Bon, après, il y a effectivement le tuyau et le fait que tu puisses être distribué ou pas, ça c'est la première chose. Mm-hmm. Et donc, derrière, il y a aussi le référencement, qui est très bien fait d'ailleurs par Google, qui est moins bien fait par Yahoo, mais il paraît d'ailleurs que le moteur de recherche s'est bien amélioré. Moi, ça fait une éternité que je n'ai pas testé Yahoo, je ne sais pas
moi non plus.
En fait, Yahoo est énormément utilisé encore aux États-Unis. Nettement moins en Europe et dans le reste du monde.
Ce que j'allais dire, ça, c'est nettement plus implanté dans l'utilisation quotidienne aux États-Unis. Et ils sont beaucoup plus présents, même visuellement, pour des événements, des choses comme ça. En Europe, on ne les voit pas, on n'entend rien. De temps en temps, il y a un truc qui perd parce qu'ils sont associés.
J'allais voir à quoi ça ressemble, ça fait tellement d'années que j'ai pas.
Oui, mais moi aussi, j'ai lancé les gilets de Yahoo, quoi. C'est assez particulier. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais faire un petit top. Un petit top 10 des sites les plus visités dans. Les sites internet les plus visités au monde. Mm-hmm. À votre avis, c'est lesquels? Quel est le site le plus visité au monde? C'est assez facile.
Google.
Le carnivore.
Le carnivore, ça, mais non, raté. Non. Non, c'est Google, effectivement. Là, c'est c'est la première place. D'ailleurs, on parle souvent que Google fait une sorte de deuxième couche à Internet. C'est-à-dire, la plupart des gens se connectent à Google pour se connecter à Internet et passent par Google pour aller sur Internet. Mm. Et d'ailleurs, ça peut poser certains problèmes, mais bon, ça, certaines dérives et autres trucs, mais on en reparlera. Le deuxième site, à votre avis?
Site porno?
Non, c'est pas un site porno.
YouTube?
Non.
Wikipédia?
Non.
Facebook?
Bah oui, Facebook, deuxième. C'est bah oui, le deuxième.
Évidemment.
Voilà. Mais après, effectivement, c'est YouTube. C'est le troisième site. Donc déjà,
Google.
Voilà, Google tient et le premier et le deuxième. Le troisième, le quatrième, c'est lequel?
Site, hein, on parle pas d'application aussi.
Ah, site, hein. Site internet.
Ouais. Oh là là.
Il n'y a pas un truc de cul. Ils doivent être dans le top
10. Si, non, pas dans le top 10. Non,
c'est pas vrai.
Bah,
que du internet.
Que du internet.
Twitter.
Non.
Mais c'est
non.
Pas.
Eh ben, je viens d'en parler, Yahoo en fait.
Tu le consommes pas Twitter.
C'est
comme
Yahoo
un site, hein.
qui est le quatrième site.
Quatrième site, c'est Yahoo.
Ouais, voilà. Donc c'est quand même un truc énorme, quoi. C'est vraiment. On croit pas comme ça, on parle souvent de Facebook, Google, YouTube, etc. Mais Yahoo a quand même une énorme place dans l'Internet mondial.
Je suis dessus, il est dégueulasse.
Le cinquième, c'est lequel? Alors c'est un site, moi, que je connaissais pas, franchement. Et je savais même pas que ça existait. J'ai appris en regardant quel était le cinquième site.
Pas un truc de rendez-vous?
Non, c'est pas un truc de rendez-vous. Bon.
Damien.com?
Non. Alors, c'est un service de Google.
Un service? Gmail?
Non, c'est pas Gmail.
Calendar?
Non.
Blogger.
C'est vrai? C'est Blogger.
Ah oh non.
Qui est un service gratuit.
C'est pas vrai, ça marche en Google.
Quelle déception.
Putain. Et il arrive en cinquième position, ce qui est énorme.
Hein, Tumblr n'a pas écrasé ce truc, quoi.
Ouais, non.
Tiens, à propos de Google, vous avez vu que maintenant, on peut aller visiter... Il y a un des sites qu'on peut aller visiter par Street View. Des data centers.
On peut rentrer à l'intérieur. Ouais.
Et il y a des trucs planqués dedans, des trucs qu'ils ont planqués, des Stormtroopers, des machins comme ça.
Ah, ça serait rigolo. Ah, voilà, enfin, on essaiera de voir.
On parle de Google.
Bon, après, le sixième site, là, vous le trouverez jamais, en fait, parce que c'est pas un site qu'on connaît dans notre coin. Et c'est Bedu. Ou Bedu, je sais pas comment on prononce ça d'ailleurs, parce que c'est
BDU, un.
Bedu.
BAIDU.
Vas-y, fais tourner.
Oui, c'est ça.
Bédo. Et c'est un site chinois. Et c'est un site qui est, en gros...
Je comprends rien sans le chinois.
Ils ont du shit, en gros.
C'est un site qui offre énormément de services, un peu à la manière de Google, quelque part, parce qu'ils offrent une carte, des MP3, des images, des machins, etc.
Et tout ça gratuit.
Voilà. Ça, c'est le sixième site. Le septième site, c'est Wikipédia, quand même.
Ah oui, j'allais dire, Wikipédia devrait être dans le top.
Oui.
C'était ça ou un truc de cul?
Wikipédia. Le huitième, allez, un petit effort.
Il est connu celui-là.
Oui, il est connu et en même temps, on n'y pense pas non plus. Mais quelle entreprise, on n'a pas encore cité, grosse entreprise.
Problème. Microsoft Live.
Microsoft Live.
Problème Microsoft Live.
Problème Microsoft Live. C'est le 8e. Et là, c'est tout pareil, tout le système de messagerie, stockage en ligne, galerie photo, machin, etc. Donc c'est le truc live, leur espèce de truc unifié. Le 9e, on a Twitter, qui est quand même, c'est pas mal pour un site qui est quand même assez récent, mine de rien, quand on y pense. Et le 10e plutôt, c'est QQ.
Voilà ton site de cube.
C'est un service de messagerie en Chine en fait. Voilà, il y a plus de 600 millions de contacts actifs dessus, etc. Donc voilà, c'est le 10e site le plus regardé.
Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'en Chine en fait, il y a vraiment un marché alternatif de l'internet et tous des trucs qu'on connaît pas du tout par ici. Hein.
Et avec des technologies qu'on n'utilise pas, mais qui risquent de nous arriver à un moment ou à un autre.
Un blog dessus, qui parle justement de tout ça.
Le piratage en Chine est complètement surréaliste par rapport à chez nous, par exemple. C'est-à-dire que les films, avant de sortir au cinéma, sont parfois 3 mois à l'avance dans des versions complètement...
Ils sont même pas encore finis.
Non, mais c'est la vérité. Quoi. Moi, je me rappelle toujours de la copine de mon frère qui m'avait montré... je crois que c'était Wolverine, mais le premier, là, qui est sorti il y a quelques années, que j'ai vu sans les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il y avait encore les. Il n'y avait pas eu la post-prod.
Oui, je l'avais vu également.
Et
en
ça, ça venait de trucs chinois,
c'était qui étaient
piratés. Et tu voyais, à la fin, il y avait une espèce de bataille, comme ça, tu voyais les étoiles de synchronisation.
Ah, les trucs de tracking.
Les trucs de tracking, etc. C'était complètement dingue cette
histoire. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a plus rien derrière maintenant dans les films.
Ouais, c'est ça.
C'est là que
tu te dis, ouais, les gars, comment ils ont fait ça et tout, c'est incroyable.
C'est comme notre pauvre Gandalf qui était tout dépité.
Voilà, j'hésitais à le dire pour pas aller trop loin, mais je me dis Gandalf qui jouait tout seul, qui a tapé une crise.
Dans Iron Man 3, il y a aussi, comment il s'appelle l'acteur principal ?
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. qui à un moment s'est cassé la cheville, ou je sais plus trop quoi, ou s'est foulé la cheville.
Mais c'est pas grave.
Et ils l'ont remplacé par un acteur semi-virtuel, c'est-à-dire une doublure sur laquelle on recollait en fait du Robert Downey Jr.
Merde.
Et c'est là que tu te sens bien.
Ceci dit, pour tous les possesseurs de l'édition Blu-ray du Seigneur des Anneaux, je conseille de regarder le moment où il y a le pont qui s'écroule dans le premier Seigneur des Anneaux. C'est à mourir de rire. T'as l'impression qu'ils sont venus coller des photos des acteurs en tracking dessus. C'est ridicule. C'est vraiment un truc à voir tellement c'est mal fait. Et c'est à se demander comment on n'a pas pu tilter là-dessus au cinéma, quoi.
Ouais. Bah après, voilà.
Bon, allez.
Donc, je vais revenir sur cette histoire d'affaire de Dailymotion. Ouais. Alors, pourquoi c'est stratégique, à mon avis, pour la France et même pour l'Europe ? Alors, pour la France, d'abord, parce que la France a cette fameuse exception culturelle dont on nous rabat les oreilles depuis je ne sais pas combien de temps, et qui, de tous les contrats de l'OMC ou autres contrats entre les différents pays au niveau européen et autres, tous ces contrats, à chaque fois, on arrive dans l'achoppement de l'exception culturelle française, c'est-à-dire qu'en gros, la France essaye de défendre son industrie, on va dire cinématographique, et plus largement des médias. Alors, ça a même cette discussion est même en train d'avoir l'importance dans une discussion plus large. Au cas où vous n'êtes pas au courant, l'Europe est en train de discuter avec les États-Unis pour faire une zone de libre-échange. je ne sais pas si vous êtes au courant à l'heure actuelle, mais c'est une discussion avec Obama et l'Europe qui est en train d'être engagée pour se faire. C'est pas négligeable quand même comme impact qu'on pourrait avoir au niveau commercial, surtout qu'on sait que les États-Unis ont pareil des zones de libre-échange avec toute une partie de l'Amérique latine notamment, et que nous aussi on a une série de libre-échange avec notamment la Corée, des choses en genre, etc. Ça risque d'être un gros bordel. Et là-dessus il y a cette l'exception culturelle française qui continue à surnager toujours. C'est ce qui fait que effectivement le cinéma français, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais continue à vivre et est toujours vivant et continue à produire beaucoup de films chaque année. D'ailleurs, il y a Cannes à l'heure actuelle qui peut montrer que, mine de rien, le cinéma français est encore vivant. L'énorme problème que vont rencontrer le cinéma et les médias de manière générale, et aussi bien les médias et le cinéma européen que celui des États-Unis, mais de manière générale du niveau mondial, c'est que à l'heure actuelle, il y a un énorme problème qui se pose de la rémunération des médias. Tu parlais tout à l'heure, Sylph, de Wolverine qui était regardé avant sa sortie, même en effets spéciaux, machin, etc. En fait, Internet est en train de complètement détruire cette histoire chronologie des médias et de, en fait, des différentes phases dans lesquelles peuvent être énumérées les ayants droit de manière générale. Alors, c'est un gros mot, généralement sur Internet, ouais, c'est quoi ces ayants droit qui nous pompent de l'argent, le cinéma c'est trop cher, fait chier, et les DVD c'est trop cher, les Blu-ray c'est trop cher, et donc voilà. Oui, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même bien réussir à avoir de l'argent pour faire des films et pour, ou des chansons ou autre. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, il y a un énorme problème de rémunération autour de ces médias. Par rapport à le boulot que je fais à l'heure actuelle, je vois bien l'énorme problème que ça va poser, l'arrivée de géants, parce que c'est des géants au niveau européen, par rapport à l'Europe, de Netflix. Alors Netflix, c'est un système de vidéo en ligne qui arrive des États-Unis et qui arrive avec un modèle très agressif et qui arrive avec des choses qui n'existent pas.
C'est quoi, c'est 10 dollars par mois pour avoir accès à tout ce qu'on veut ?
Non, c'est pas aussi idyllique que ça. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, on prend 10 dollars, on a l'entièreté du catalogue, etc. Mais en fait, on peut... pour avoir réellement l'entièreté du catalogue, c'est dans les 24 dollars et quelqu'un. Donc, c'est pas si idyllique que ça. Mais en gros, on arrive avec quelque chose d'énorme qui arrive avec des gens qui sont capables de produire même leur propre série et qui pèsent tellement cher, tellement lourd, qu'ils sont capables d'acheter les droits, je sais pas moi, des Experts ou de Desperate Housewives ou de Grey's Anatomy, qui sont des énormes séries au niveau mondial, pour l'entièreté de l'Europe. Mais il n'y a pas seulement Netflix. Alors Netflix a déjà annoncé qu'ils arrivaient pour 2013 en France et aux Pays-Bas, et ils se font la Belgique au passage, voilà. Donc en gros, on va commencer à manger du Netflix dans ces trois pays. Mais parallèlement à ça, on a comme on disait tout à l'heure, Microsoft qui arrive avec son Windows 8, qui fait quelque part une plateforme sur laquelle les ayants droit pourront poster en fait leur médias, et tout le monde pourra en profiter suivant les différents que ce soit une tablette, un PC, une télé ou autre, etc. Via la Xbox One. Il y a Google aussi qui arrive avec son store, ils commencent à faire le ménage et ils essayent de pareil de vendre du média, etc. Il y a Sony qui fait la même chose. Apple, ça fait un moment qu'ils essayent de quitter un peu leur juste univers Apple, parce que ça commence à commencent à se retrouver renfermés un peu dans leur principe, même s'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent avec iTunes, quand même, mine de rien. Voilà, et là, en fait, il y a une vraie guerre, une guerre ouverte qui se livre autour des médias et autour de ces fameux droits, ayants droit, etc. Et là-dedans, parce que j'ai oublié d'ailleurs Google avec YouTube qui va faire des chaînes aussi, là-dedans, Dailymotion est peut-être une porte de sortie pour la France, mais aussi pour l'Europe. Tout simplement parce que en fait, s'ils ont besoin s'il te plaît, dis-le, qu'est-ce que tu comprends pas, vas-y.
S'il fait mort,
c'est long.
Et oui, c'est long, mais il faut expliquer, sinon ça sert à rien. Donc vas-y.
En fait, je ne comprends pas où tu veux en venir.
Ce que je veux en venir, c'est que Dailymotion, si l'Europe, on a déjà souvent critiqué l'Europe ou la France d'ailleurs, de lancer de grands projets en disant on va créer le truc européen ou on va créer le truc français. Y a 10 milliards d'exemples, je cite même juste le moteur de recherche, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est les Français qui ont essayé de lancer ça, le moteur de recherche, ou européen je crois d'ailleurs. D'ailleurs personne ne connaît, ne sait comment il s'appelle.
Voilà, non, hein.
Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils se sont rendus compte que c'était stratégique. Un moteur de recherche, c'est stratégique. C'est stratégique, parce que c'est ce que tu fais si tu existes ou pas sur Internet, d'accord ? Le problème, c'est que si des politiques, que ce soit au niveau européen ou si ça, au niveau national, essayent de lancer ce genre de choses, les trois quarts du temps, ils se plantent, point barre. Parce que c'est impossible de créer un YouTube juste avec tes petits bras en disant « Ouais, on fait une plateforme et on va espérer que tout le monde va aller dessus ». D'accord ? Je pense que là, tout le monde est d'accord sur autour de la table. Mm-hmm. D'accord ? Et si on a... Dailymotion existe déjà. Et si justement cette plateforme qui existe déjà, et dont déjà il y a moyen de gérer les droits, il y a déjà des services dans Dailymotion qui permettent de gérer justement ces droits et ces ayants droits, c'était utilisé de manière générale par la France et par l'Europe pour être une plateforme VOD qui permet justement cette fameuse entre guillemets exception culturelle, mais c'est aussi d'éviter l'hégémonie américaine qui est clairement là. Si on voit, je vous ai déjà cité toutes les entreprises qui sont en train de regarder le marché mondial des médias, voilà, là on peut avoir, c'est là où Dailymotion peut être stratégique. Alors le gros problème, c'est bien beau de dire voilà, il faut que ça soit de bloquer la vente à 70-30 comme l'a fait Arnaud Montebourg, mais derrière il faut effectivement proposer une alternative de développement à Dailymotion. Et je pense que c'est pas juste la France qui peut faire ça, mais c'est au niveau européen.
T'as pas l'impression que, hors de toutes ces belles et bonnes raisons, c'est juste parce qu'ils ont des actions dans le tas, le gouvernement français qui s'inquiète de ça?
Non, parce que il y a eu plein de choses qui ont été vendues de la même façon dans lequel la France avait des actions.
Ils n'avaient pas autant de pourcents. Là, tu l'as dit tout à l'heure qu'ils avaient combien, 20% dans Orange, c'est
ça? Ils ont 26% dans Orange, oui.
Donc ça veut dire qu'Orange a investi combien, tu disais? C'est quoi leur capital, Orange? Il faudrait voir.
Orange, c'est énorme. C'est une entreprise énorme. D'ailleurs, Dailymotion, ça représente peanuts chez eux.
C'est vrai?
Et moi, pour moi, en fait, le gros problème, c'est qu'Orange, on n'a rien à cirer de Dailymotion. C'est l'énorme problème.
En fait, ils ont acheté ça pour se faire du fric dans l'histoire.
C'est quand on voit que ça a été acheté le 30 janvier pour être vendu finalement en mars.
3-4 mois plus tard.
3-4 mois plus tard, c'est là que tu te dis, ok, c'est juste une action technique pour réussir à revendre plus cher, machin, etc.
Ok, tout en gardant un pourcentage dessus.
Oui, tout en gardant un pourcentage, mais d'ailleurs...
Et le verdict de l'histoire, ça a déjà été décidé ou pas?
Selon certaines sources, en fait... En fait, Orange allait finir par filer les 30 derniers pourcents à Yahoo. Yahoo a renoncé d'acheter Dailymotion. Donc, de toute façon, c'est terminé.
À cause du gouvernement français.
Alors, soi-disant à cause du gouvernement français, moi, je pense qu'ils espéraient récupérer 70% et récupérer tout le savoir-faire de Dailymotion. Ça ne les intéressait pas spécialement de garder une entité Dailymotion avec laquelle ils travaillaient. Ce n'était pas forcément la logique de Yahoo.
Moi, ce qui m'interpelle avec Dailymotion, c'est... Tu vois, quand j'ai posté un article il n'y a pas très longtemps sur le dernier album de... Enfin, le dernier clip de... Comment il s'appelle ce groupe-là?
De Indochine.
D'Indochine, ouais. C'est ça qui avait été censuré suite à une histoire de politique. Enfin, comme ils savent souvent bien le faire en France, faire des scandales avec des choses qui n'en valent pas le coup, tu vois. En fait, ce qui était assez interpellant, c'est que si tu me dis Dailymotion est français, en fait, c'était le seul distributeur de vidéos sur lequel on savait regarder cette vidéo, si je me rappelle bien.
Bah oui, mais...
Donc c'est le seul à pas l'avoir censuré, alors que c'était le seul à être français dans l'histoire, alors que tous les autres l'avaient censuré suite à la polémique.
C'est ça qui est intéressant. Je pense que... c'est là où l'Europe, la France et l'Europe, hein, parce que je pense que la France tout seul, ça ne sert pas à grand chose, mais a intérêt à garder ce genre de technologie et ce genre de société à l'interne pour pouvoir effectivement appliquer ses propres lois et ses propres gestions. À bonne ou pas bonne, ça c'est une autre histoire, c'est même pas dans cette.
Google, c'est américain, moi je pensais que c'était européen.
Non, c'est américain.
Ouais, c'est américain.
D'ailleurs, que leur siège est en Angleterre.
Non. À mon
avis, ils doivent, dans les papelards et dans la fiscalité, ils doivent être en Irlande.
Ah, c'est ça. Mais le siège est irlandais.
Non.
Mais c'est juste pour des taxes. Hein.
Pour la petite histoire, juste, c'est la même chose hein, pour Apple et Microsoft et d'autres sociétés. Hein, c'est le même principe.
Ils sont tous aux îles Caïmans.
Leur siège est bien aux États-Unis. Mais la société qui est censée exploiter les services de Google, les services d'Apple, etc., est basée en Irlande. Voilà. Et c'est elle, en fait...
Il y a une exonération en Irlande sur les... Quand tu t'installes en Irlande avec ta société.
Bah, en gros, ils payent pas. Ça sera peut-être l'occasion de faire un petit point là-dessus. Bon, voilà. Moi, en tout cas, beaucoup de gens se sont élevés contre le fait que le gouvernement français dise non à cet échange. Moi, je trouve qu'effectivement, ils n'ont pas dit non, mais ils ont dit juste un 50-50. Ça, je trouve que c'était raisonnable quelque part, parce qu'effectivement...
Et c'est une loi, le truc dont tu as parlé tout à l'heure, là, de libre-échange, je sais pas trop quoi. Non, enfin, le truc qui préserve, en fait, je me rappelle plus du terme.
L'exception culturelle,
oui, c'est ça. C'est une loi, ça, ou c'est juste une espèce de façon de voir les choses?
C'est en fait un principe qu'essaye de défendre la France depuis très longtemps au niveau de tous les sommets européens et mondiaux, de faire échapper la culture à la marchandisation générale de la société. Quoi.
Un peu comme les Flamands veulent le faire en Belgique.
Non, mais l'idée
on ne sait pas qui c'est, il vient d'arriver dans la salle, on ne sait pas qui.
Pourtant, c'est un peu le cas, tu sais.
Oui, mais de toute façon, on va pas commencer avec ça maintenant.
Bah, écoute, vous voulez du débat
Non, mais voilà.
Bon, bref. Et donc, du coup, maintenant, ils se retrouvent avec un truc dont ils ont investi des millions. Et
non, mais alors, il faut savoir pour Orange, c'est peanuts. C'est vraiment peanuts. Hein. Ça représente même pas des frais de fonctionnement pour un centre d'Orange. Hein. Donc, c'est vraiment. En plus, c'est pas de l'argent qui dort, puisque à la limite, ça fructifie. Et Dailymotion est bénéficiaire. Donc, ça rentre de l'argent. Donc, c'est même pas ça. Et de manière générale, je pense que le gros problème, c'est qu'Orange n'en a rien à cirer de Dailymotion de manière générale. Ce qui est un tort, je pense, parce que ça permettrait à Orange d'arriver à un autre statut que simple opérateur téléphonique ou de télécommunication de manière générale. S'ils poussaient un peu ça et si effectivement ils trouvaient un partenaire intéressant autour de Dailymotion pour le promouvoir. Mais bon, voilà. Juste pour terminer, il y a un rendez-vous tech, le numéro 110 de Patrick Béja, qui est un podcast dans lequel il en discute avec Jeff Clavier. Alors Jeff Clavier, c'est une sorte de gros business angel qui vit dans la Silicon Valley et qui, en fait, lui, son but, c'est de foutre de l'argent dans des startups. Et donc, voilà, il donne son avis sur cette affaire-là. Je ne suis pas franchement d'accord avec, mais je trouve que c'est intéressant de l'écouter, donc vous pouvez aller voir là-dessus. Le deuxième, c'est Arrêt sur Image, qui a fait une émission, pareil, sur cette affaire Dailymotion, où là, d'ailleurs, il y a un des fondateurs Dailymotion qui s'exprime. Ils ont un peu la même idée, c'est-à-dire c'est n'importe quoi, pourquoi l'État s'en est mêlé. Et l'émission, c'est Yahoo, l'État, Montebourg et la théorie du plateau de fromage, le débat. Vous verrez ce que c'est cette histoire de plateau de fromage.
J'ai faim.
Voilà. Désolé, c'était un peu long, mais c'est toujours compliqué de faire passer ce genre de choses, quoi.
Bien. Voilà. Bien. Bon, ben écoute, bon. La suite est au prochain numéro, alors, hein, partie 2 voilà, dans un mois. On verra ce qu'il advient donc de Dailymotion et de toute cette infrastructure.
N'hésitez pas à participer autour de l'émission pour donner votre avis.
Voilà, je suis sûr que vous avez un avis bien tranché sur la question. On passe à la suite avec tout de suite Luc qui va nous parler du Serious Gaming. Et on parle à présent du Serious Gaming, comme on venait de l'annoncer avec Luc. Alors, on l'a souvent énoncé, qu'est-ce que c'est le Serious Gaming ?
Mais justement, c'est assez mal connu, et je m'y intéresse depuis quelques mois, parce que, déjà au niveau de mon boulot, et chemin faisant, je me rends compte qu'en fait c'est très mal connu, et surtout, en Belgique, c'est très mal, pas très peu, mais très mal développé. Et bon, pour vite faire un petit tour d'horizon, le Serious Gaming, c'est... enrober un système de formation ou en tout cas, le but est de faire passer un message, donc c'est éducatif, c'est de la formation,
c'est pédagogique globalement.
C'est pédagogique aussi, et à travers quelque chose d'un peu plus ludique. Donc en gros, on essaie de faire passer un peu mieux la pilule, et il y a beaucoup de voix qui sont déjà utilisées pour ça. Il y a notamment, j'étais à la conférence Serious Game qui s'est tenue il y a une ou deux semaines, et je me suis rendu compte qu'il y avait des projets qui étaient assez rigolos, comme des gens qui utilisent WoW pour faire de la formation de team leading et des choses comme ça. Ça m'a fait doucement rire, parce que je crois que je devais être le seul vrai gamer dans la salle. Donc, quand on voit un gars de la cinquantaine qui explique, qui débarque et qui crée une elfe de la nuit, enfin, on peut pas s'empêcher de rire, surtout quand on connaît le jeu, qu'on sait qui y joue. Et enfin, il y a beaucoup de pistes, très peu qui sont vraiment bien utilisées, mais disons que le Serious Gaming, ce qui est intéressant, c'est toutes les possibilités qu'il y a. Et parce que ça emploie tous les médias, ça emploie des vrais jeux qui sont vraiment développés en stand-alone, des jeux qui sont développés comme des applications mobiles, des jeux qui sont développés comme les animations Flash, des sites web, des applications pour des réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de pistes. Et moi, je trouvais que le fait d'en parler ici, c'était intéressant parce qu'on s'adresse à beaucoup de gens quand on fait un serious game. C'est ça le problème. C'est qu'on... attraper, je veux dire, une audience et la captiver le mieux possible, ils brassent super large, parce qu'ils ne savent pas exactement qui ils vont avoir derrière non plus. Ouais. Ils connaissent plus ou moins la tranche d'âge, il y a les systèmes d'anonymat qui prennent l'importance quand on est en société, par exemple. Si on demande à des gens de donner leur avis sur la société, il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir, parce que si c'est nominatif, ouais. On ne sait jamais trop si on va vraiment être impliqué ou pas, ou si ça va nous retomber sur la tronche. Et il y a des choses intéressantes qui se font en Belgique, beaucoup de partenariats avec la France, Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout sur des budgets de jeu.
Mmh. On peut peut-être évoquer le site, c'est seriousgame.be. C'est, je
oui,
c'est celui qui a organisé la conférence.
C'est plus un portail, c'est celui qui organise notamment la conférence, des workshops aussi sur des formations qui sont assez intéressantes pour monter un projet, savoir comment s'en sortir, comment démarrer. Il y a beaucoup d'aides aussi qui existent au niveau européen, au niveau belge, au niveau français, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau frontalier, hein, entre la France et la Belgique. Des petits studios dont on n'avait plus entendu parler depuis beaucoup de temps, en fait, depuis un peu l'émergence de Flash. Mm-hmm. Je me souviens de Œil pour Œil.
Ah oui, ils existent encore.
Ils sont toujours là, ils sont dans le Serious Game. Ils sont reconvertis.
Je me souviens à l'époque, c'était les intros Flash qu'ils faisaient pour les sites qui étaient
J'ai pas causé avec eux personnellement, mais j'ai vraiment l'impression que c'était eux. Hein. En tout cas, je n'ai pas connu, je ne trouverais pas 36 000.
Ouais. C'est la boîte qui était en concurrence avec Schmann il y a une dizaine d'années.
Avec Non pour Non.
C'était mauvais.
c'était eux qui faisaient des espèces de, ouais, comme tu disais, des intros en Flash.
Ouais, ils faisaient des grosses, démos vraiment techniques. Ils étaient déjà là. Je pense que c'est les mêmes. Il y a Fishing Cactus, qui est une chouette petite boîte qui fait des trucs assez bons. Et moi, je pense que ça vaut la peine de s'y pencher pour des gens qui sont, par exemple, un peu le cul entre deux chaises, qui savent pas trop si, par exemple, ils ont envie de faire des études ou de s'orienter. Ils aiment bien le jeu, ils aimeraient bien faire leur boulot. Et ils se disent, bah oui, mais bon, le jeu vidéo, c'est pas facile. Il y a pas grand-chose en Belgique. Il y a des trucs en France, mais c'est pas facile d'accès. C'est un milieu un peu obscur, on sait pas très bien par quelle boule prendre.
Autour de ça, en fait, il y avait une masterclass, en fait, je crois que c'est le directeur artistique ou le directeur de projet de... la boîte qui a fait Uncharted, Naughty Dog, la semaine dernière. Mm-hmm. Et qui était vraiment intéressante justement sur tous les métiers du jeu vidéo, la manière dont ils gèrent leur entreprise, etc.
Mais
c'est la deuxième fois qu'ils font ça, en fait, cette espèce de masterclass. La première fois, ils l'avaient fait avec celui que Damien aime bien, David Cage.
C'est
vrai.
Non, mais je trouvais intéressant sa démarche. Après,
il a un discours
intéressant au niveau du jeu. Maintenant, le problème, c'est ce qu'il arrive à en faire. Après, c'est toujours.
C'est pas le même débat.
Enfin, moi, je disais ça parce que moi-même, je me suis souvent un peu questionné en me demandant, voilà, j'ai fait des études de multimédia, Damien aussi d'ailleurs. Et tu sors de là, tu te dis un peu,
toutes les portes sont ouvertes.
Mais tu fais un peu tout, mais tu fais pas vraiment un truc en particulier. Tu dis, bon, alors maintenant, il va falloir quand même un peu choisir parce qu'on sait bien que c'est ce genre de métier où si tu commences pas d'un côté en bas de l'échelle et tu prends l'expérience qui est pas facile à prendre en dehors de faire des stages, de rester le mandai qui va faire les petits machins sur le côté avant de pouvoir faire des choses intéressantes et de monter, tu te dis ouais mais non, c'est pas, je vais laisser tomber, je vais faire un truc différent. Et le serious gaming, il y a un peu entre les deux, c'est-à-dire que ça peut permettre aux gens qui ont envie de faire autre chose ou les jeunes qui sont pas encore dans le marché de l'emploi d'éventuellement trouver un peu quelque chose entre les deux mondes intéressant.
À ce sujet, justement, un exemple pas mal sur le blog justement du portail SeriousGame.be qu'on vient d'évoquer, c'est Château Academy. Je sais pas si on a entendu parler ou pas, mais c'est justement un Serious Game destiné à attirer les jeunes vers les différents métiers du vin et justement tout ce qui concerne la vigne. C'est assez particulier. Donc en gros, on va jouer à un jeu vidéo qui va nous apprendre des choses. Donc finalement, même si on veut pas devenir vigneron, on peut en retirer une expérience. finalement, c'est pas une mauvaise idée.
On avait vu un très chouette aussi qui est Algobot, je crois. Que c'était ça, et qui permet d'apprendre la programmation, en tout cas les rudiments des concepts de programmation à des jeunes. Et c'est fait au travers d'un jeu en 3D temps réel qui est pas mal foutu, franchement. Comme je disais, les budgets sont assez petits. Donc le problème, c'est que on a un peu l'impression qu'ils savent pas à qui s'adresser pour faire un jeu. Nous, en tant que gamers, on a des références, on a des points de jugement clés, on s'arrête sur des choses comme le gameplay, le graphisme, le son, des choses comme ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Ce sont pas des joueurs qui le font. Ça se sent, quoi. Donc, si vous m'entendez, aidez-nous. Et intéressez-vous au Serious Gaming. Il y a des tonnes d'opportunités, je pense, là-dedans. Si vous avez une expérience, même pas spécialement comme un spécialiste, comme un développeur, comme un designer, mais ça vous intéresse, vous avez envie de vous lancer là-dedans, moi, je serais vous, j'irais quand même jeter un œil. Il y a le Technocité qui fait des formations assez intéressantes sur la 3D temps réel, comment monter un projet, des choses comme ça. Je trouve que ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Allez-y.
Voilà, un sujet assez intéressant. Est-ce que tu as d'autres références à part ce portail? Donc on a cité seriousgame.be.
Oui, j'ai des références. Je vais en mettre sur le site de Le Carnivore parce qu'il y a beaucoup d'adresses, donc je ne vais pas commencer à tout lâcher.
Super.
Ici. Il y a notamment, je parlerai un peu, enfin je mettrai quelques définitions et quelques sites qui touchent différents styles de serious gaming, parce qu'il y a au moins 4 ou 5 styles différents de serious game qui ont des buts différents, et des adresses comme par exemple le truc du Skrillex Quest. Donc Skrillex, bon voilà, c'est Skrillex, mais n'empêche, il avait fait un truc très chouette, enfin on avait fait un truc pour lui très chouette qui était basé sur une sorte de Zelda, qui est vraiment bien fait, quoi. Là on sentait la différence avec des gens qui avaient du background, parce qu'on ne s'invente pas un style comme ça sans avoir des références, et je parle du jeu, pas de Skrillex, et enfin voilà, je mettrai plein d'adresses.
Okay. C'est qui Skrillex?
Non ben voilà, c'est pas la peine de savoir.
Tu mettras Skrillex.com également pour Damien. Super, donc voilà le Serious Game Gaming, pardon, présenté par Luc. Donc un sujet assez intéressant, et finalement ça bouge un tout petit peu déjà en Belgique, comme le disait également Sylph, avec des masterclass et autres. Tout ça donc à retrouver sur le blog de Le Carnivore, donc sur le portail et sur seriousgame.be. On passe maintenant au cinéma avec Sylph également. On va évoquer quelques titres, on peut dire ça comme ça. On y va. Et on commence avec Iron Man, le troisième du nom.
J'ai un paquet d'excuses à faire. Plus pareil depuis New York. On vit des choses, mais ça n'a qu'un temps. Je ne dors plus. Et quand je dors, je fais des cauchemars. Il faut dire qu'ils ont une centaine à vouloir ma peau. J'espère pouvoir protéger la seule chose qui m'est essentielle.
Mesdames, les enfants, certains voient en moi un terroriste. Je crois plutôt être un professeur. Leçon numéro 1. Les héros, ça n'existe pas.
Alors, Sylph, Iron Man 3, est-ce qu'on est de retour avec un grand film de super-héros ou pas?
En fait, il fait suite à The Avenger, qui était vraiment sympathique. Là, on est plus dans une espèce de film à grand budget hollywoodien, qui reste sympa, mais qui n'est pas du tout de la même qualité que ce qu'on a pu voir avec The Avenger. Moi, j'ai trouvé ça plaisant. On ne va pas s'éterniser dessus, parce que je crois que tout le monde a vu les bandes-annonces, tout le monde a vu de quoi il s'agissait. C'est un mec qui se met dans une armure de robot et qui casse la gueule aux méchants, super. On sort un petit peu de ce canevas-là pour celui-ci. Moi, ce que j'ai trouvé plaisant, ce qui a été pas mal critiqué. Mais globalement, c'est un film qui se regarde, qui est pas mal fichu et qui est assez drôle. Avec Robert Downey Jr., comme d'habitude, dans son rôle de comique.
Bah, comique et puis excellent acteur à tous les niveaux, hein, pas seulement niveau comique, quoi.
Bon, en tout cas, le film m'a plu. Je l'ai trouvé plaisant, drôle, je me suis pas ennuyé. Bon, après, je suis assez bon public pour ce genre de choses. Hein.
Est-ce qu'on peut révéler un tout petit peu le pitch peut-être de l'intrigue sans spoiler non plus? Est-ce que c'est possible ou pas? Je l'ai vu également, donc je pose la question à voix haute.
Je sais pas si c'est vraiment utile. En gros, la bande-annonce, on dit déjà long. En gros, Tony Stark, qui est Iron Man, en fait, est un peu traumatisé de l'expérience qu'il a vécue à la fin de The Avenger. Et il pense sérieusement à se reconvertir dans autre chose. Il est un petit peu blasé, il se demande un petit peu pourquoi il fait ça. Et puis, il y a une espèce de grand méchant qui apparaît comme ça. Qui...
Le mandarin.
Voilà, qui est une espèce de terroriste. Voilà, ça sert à rien d'en dire beaucoup plus, il faut le voir. C'est pas trop mal au niveau scénaristique. Il y a 2-3 rebondissements qui font un petit peu Spielbergien, avec des gosses qui lui filent un coup de main, des trucs comme ça. Bon, dit comme ça paraît un peu nanardesque, c'est un peu le cas, mais je trouve que c'est un spectacle assez sympathique.
À qui peut s'adresser finalement ce film? Est-ce que c'est aux fans d'Iron Man, de comics? Est-ce que c'est au grand public? Est-ce que c'est aux enfants? Est-ce que c'est aux adultes?
Mais moi, j'ai trouvé ça un petit peu moins comics que d'habitude. C'est-à-dire qu'au final, on voit pas trop... Il y a pas trop le délire avec le gars qui veut lancer des missiles dans tous les sens, des choses comme ça. Enfin, c'est plus une espèce d'enquête ou de remise en question du personnage principal. Mm-hmm. Donc, ça rejoint un peu certains hors-série qu'on avait trouvé chez Marvel, dans lequel ils s'orientaient plus vers le personnage de Tony Stark que vers le personnage d'Iron Man. Maintenant... À qui s'adresse le film? Je pense à tous les gens qui vont voir ce genre de film au cinéma en sachant ce qu'ils vont voir, quoi.
Ok, donc le public d'Avengers, de, voilà, de Man of Steel qui va arriver également. Damien ?
Il y avait quand même une petite polémique qui traîne autour de cet Iron Man, notamment au niveau de ce que fait Marvel de ses super-héros, parce que Marvel a récupéré quelque part quasiment toutes ses licences.
C'est
et
ce qu'ils appellent le Marvel Universe, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est une espèce de... Là, ils sont passés en phase 2, comme ils disent. C'est une espèce de, d'univers, en fait, qui se veut cohérent entre tous leurs films. Mm-hmm. Sauf les Spider-Man, parce que les, enfin, j'en avais parlé dans une précédente émission. Mm-hmm. Les Spider-Man, il y a une histoire.
C'est la Fox, je crois, qui est encore.
Voilà, bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais ici, en l'occurrence, ils sont vraiment dans cette optique d'essayer de construire leurs personnages et de les faire un peu avancer d'une manière logique. C'est d'ailleurs ce qui est un petit peu bizarre dans ce Iron Man 3, parce que moi, je vois pas trop vers quoi ils vont.
Mais... De suite, ouais.
Mais bon, voilà quoi. Mais comme Damien le disait, il y a une espèce de polémique. Moi, je la comprends pas trop.
Il y a une polémique, juste pour la définir, c'est plutôt est-ce que Marvel, finalement, et à travers ses films, reste respectueux envers ses personnages, notamment, bon, ça fait polémique avec le mandarin, sans vouloir spoiler, mais ça fait polémique aussi vis-à-vis des différents personnages de Marvel, avec cet humour qui est très omniprésent quoi, dans le film, qui est parfois un peu lourd, certains le trouvent même complètement déplacé. Moi, j'ai un peu peur, au final, que ça fasse un peu le même effet, attention, que Sherlock Holmes, de Guerrici, c'est-à-dire que voilà, on vous prend un personnage et on va vous faire un film récent d'action où c'est drôle, où il y a plein d'explosions, où il y a plein de choses. C'est clair que Sherlock Holmes avec des explosions et 1000 images par seconde, c'est difficile à imaginer, sauf via Guerrici. Maintenant, le personnage de Sherlock Holmes, il est perdu dans les films, pour moi, simplement. C'est devenu un espèce de super-héros qui est capable de tout prévoir, machin, mais réellement, il n'a plus rien à voir avec ce qui faisait l'intérêt de Sherlock Holmes, à mon avis. Et d'ailleurs, il y a eu énormément d'adaptations dans tous les sens. Moi, je ne suis pas contre les adaptations et le fait qu'on s'approprie le personnage pour en faire quelque chose. La seule chose, c'est que moi, je trouve que pour les Sherlock Holmes, par exemple, l'idée du Sherlock Holmes est quasiment perdue.
Il y a encore des traits communs avec le bouquin, notamment cet attrait pour les arts martiaux et autres. Ça colle assez bien ce qui a été écrit et loin de la vue vraiment du gentleman anglais.
Été défini. Les Sherlock Holmes de Guerrici n'ont jamais été définis comme une adaptation fidèle des écrits.
Je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour moi, les Marvel suivent un peu le même chemin en prenant leur personnage et en l'adaptant au goût du jour, au large public, parce qu'il faut dire quand même que Iron Man, par exemple, c'est quand même un mec en armure qui se balade, machin, c'est quand même super kitsch. Les super-héros, de manière générale, sont
Je pense qu'ils se sont rendus compte que s'ils n'avaient pas envie de faire comme les deux précédents, c'est-à-dire qu'ils racontaient des histoires d'un mec qui fout une armure et qui pète la gueule à plein de méchants, il fallait qu'ils passent sur autre chose. Et là, en l'occurrence, ils sont plus orientés sur le personnage de Tony Stark. Et moi, très honnêtement, pour avoir vu les deux premiers Iron Man, j'ai trouvé ça plus intéressant. Parce que le personnage d'Iron Man, hormis dans la bande des Avengers, dans lequel finalement, qu'est-ce qu'on retient de lui ? C'est toujours Robert Downey Jr.
Oui, tout à fait. Et puis c'était très difficile de refaire un scénario digne de ce nom avec un méchant digne de ce nom derrière The Avengers, parce que c'est censé succéder. Mm-hmm. Et The Avengers, ça se termine quand même avec une énorme bataille au milieu d'une ville, etc. Mais on est complètement sur autre chose. Par rapport à ça, il y a notamment le podcast Split Screen, les profanateurs de subculture qui discutent de cinéma. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de les écouter. Ils ont fait des émissions spéciales sur Alien, sur Robocop, etc. Mmh. C'est super intéressant, on apprend plein de choses. Et notamment, ils en ont fait un spécial avec sur Iron Man et un débat justement pour ou contre. Le débat est finalement assez intéressant parce que ça va assez loin sur la logique derrière Marvel et pourquoi il y en a qui trouvent que ça va trop loin et d'autres qui apprécient vraiment justement cette nouvelle interprétation du monde de Marvel. Voilà.
En tout cas, on reparlera de Marvel notamment avec Thor qui revient également, un autre Avenger qui revient également.
Thor, c'est quand même hard.
On va voir ce que ça donne.
C'est quoi toi, Sergio, parce que tu me disais que tu l'avais vu après.
Écoute, moi j'ai eu un a priori assez fort, pas un a priori, mais justement en sortant du film, je me suis dit waouh. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà déjà vu ça. J'ai pas creusé la question en effet du personnage. Voilà, moi je suis fan un petit peu de la culture, mais je suis pas plongé dedans au point d'en être justement fanatique.
Qu'on s'entende bien. Après, moi pour moi, les débats autour de l'existentialité, de la pertinence du scénario de Iron Man, ça me fait plutôt marrer.
Parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler non plus, mais c'est vrai que dans le scénario, je me dis, il y a toute une trame que le fameux mandarin met en place, et je me dis finalement, avec ce qu'il a réussi à découvrir comme évolution, on va dire humaine, qui va venir faire un petit peu chier l'Iron Man. Pourquoi il doit passer par plein d'étapes à la con plutôt que de balancer une armée. Il doit faire le truc, il doit venir dire son plan. Il va dire son plan au mec avant de le tuer, mais voilà, on sait.
C'est pour ça qu'en fait, ça m'a fait penser à James Bond.
Oui, c'est comme dans les James Bond.
C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Enfin, voilà. En tout cas, on en reparlera.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film plaisant pour le.
Ah oui, tout à fait. Voilà. On se le regarde tranquillement. C'est un film popcorn à regarder. On s'amuse.
Voilà.
On s'amuse bien. On parle également de The Grandmaster de Wong Kar-wai. Et là, j'ai un petit son à te faire passer. Et cette fois-ci, il va marcher du premier coup. C'est une belle bande-son qu'on s'écoute tout de suite. Si je te permets d'introduire justement ce film.
Ok. Alors, The Grandmaster, en fait, c'est le dernier film de Wong Kar-wai. Qui raconte l'histoire déjà maintes fois adaptée de Wing Chun. Plus communément connu sous le nom de Ip Man.
Oh oui,
qui est en fait l'un des maîtres en arts martiaux les plus connus en fait de Chine, sachant que c'est quelqu'un qui est à l'origine du kung-fu Wing Chun justement. Qui est une variante en fait de, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails etc. En fait, ce qui est vraiment pertinent autour de ce film, c'est la manière dont il est filmé, la manière dont il est cadré et ce qu'il raconte. On n'est pas du tout dans un film d'arts martiaux classique, on est plutôt dans une espèce d'histoire d'amour sur fond d'arts martiaux avec plein de références à l'invasion japonaise en Chine et ainsi de suite, sachant que ce monsieur Ip Man a combattu en fait l'invasion japonaise en Chine et on a d'ailleurs beaucoup souffert, il a perdu ses enfants, enfin toutes des choses comme ça. C'est un film qui est assez triste au final, et curieusement qui ne prend pas réellement comme personnage central ce gars-là, mais plutôt une femme qui gravite autour de lui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un film qui est assez perturbant parce que il n'a pas une structure classique. On se demande même par moment où Wong Kar-wai va en venir. C'est-à-dire qu'on va parler d'un personnage qu'on ne va pas développer, mais qu'on va reciter plusieurs fois. On va faire des allers-retours dans le temps, sans trop comprendre pourquoi, etc. Ce qui fait que le film a été quand même pas mal critiqué, ce que je peux comprendre. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une telle baffe esthétique, et c'était tellement prenant aux tripes, que j'ai trouvé ce film fantastique. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. D'autant plus que le personnage de Ip Man, c'est un peu une légende en Chine. Mm-hmm. Parce qu'il a unifié en fait plusieurs kung-fu entre guillemets qui étaient un petit peu en guéguerre depuis pas mal de siècles. Il est aussi connu parce qu'en fait il est le maître du maître de Bruce Lee.
Ah, c'est le maître du maître en fait.
Voilà, d'accord. Beaucoup de gens pensent que c'est le maître de Bruce Lee.
Tout à fait, ouais.
En fait, Bruce Lee est en fait. Quand il a, suite à l'histoire avec l'invasion japonaise, etc., il est allé s'installer à Hong Kong, qui était un peu un havre de paix au milieu de tout le bordel qu'il y avait en Chine à l'époque. Et il a développé, en fait, des écoles d'arts martiaux du Wing Chun là-bas. Ce qu'on raconte d'ailleurs qu'à la fin du film, donc je vous spoil, entre guillemets, je vous spoil pas parce que c'est quelque chose qui est hyper connu sur lui et qu'on développe pas spécialement dans le film parce que c'est pas ça que le film raconte. Et donc en fait, Bruce Lee a pris des cours et a passé une bonne partie de sa jeunesse dans l'école de ce gars-là, mais pas. Il ne s'est pas entraîné auprès de lui, mais auprès de son plus fervent élève.
Ok. Petit aparté, qu'as-tu pensé justement des premiers films Ip Man 1 et 2 ?
Ouais.
Quel est ton avis là-dessus ?
C'est plus des films de kung-fu traditionnels, mais en même temps, il y a vraiment un fond et un développement qui est vraiment très bien fichu. Et surtout, l'histoire est plus fidèle que celle de ce film-ci. Parce que, hormis le personnage principal et l'histoire du personnage, enfin, de Ip Man, tous les personnages qui gravitent autour n'existent pas. Ce qui m'a un peu déçu d'ailleurs, parce que je trouvais vraiment que le personnage de quelques personnages féminins étaient vraiment fantastiques, etc. Il y a des fonds de vérité, mais globalement, le personnage féminin central, lui, n'est pas réel, en fait. Il a été réinventé et repensé autour. Et l'histoire de ce personnage est d'ailleurs assez magnifique.
Ouais, sans être un grand fan de... Donc j'ai vu le premier, je pense au deuxième également, Ip Man en question, donc on parle bien de Grandmaster ici, mais pour faire l'aparté, Ip Man 1 et 2, je suis pas un grand fan des films de baston ou de kung-fu dans ce goût-là, je la garde volontiers, mais j'ai été attiré justement, il y a un petit côté Matrix, je trouve, dans les combats, qui m'a fait tilter sur le coup.
Je crois que c'est le chorégraphe qui est le même.
Ouais, et il me dit ça, tiens, c'est comme tu l'as dit très bien sur The Grandmaster, c'est esthétique, c'est sympa à regarder, l'histoire, historiquement parlant, est pas mal, donc
mais les deux premiers,
je le conseillerais bien à n'importe qui, quoi.
Les deux premiers ne sont pas de Wong Kar-wai. Hein. Mm-hmm.
C'est, y a on que parle vraiment d'autre chose. En
fait. Ouais. C'est vraiment c'est parce que Wong Kar-wai est très, très connu pour faire de l'esthétisant et du film lent en général.
C'est justement ça qui est très intéressant.
C'est encore le cas ici.
Oui, c'est bizarre parce que c'est un film qui va commencer sur une scène de baston avec des ralentis. On a l'impression d'être dans un John Woo. Mmh. Et puis après il va partir, et c'est pour ça je pense que beaucoup de gens n'ont pas aimé, il va partir sur des histoires de romance et de réflexion sur les arts martiaux avec une esthétique très poétique. On est très très loin du film de Bourrin dans lequel on va se taper dessus tout le long du film, et pourtant très curieusement il se tape pas mal dessus
et pourtant
tu verras pour tous les goûts.
mais c'est vraiment fait de telle manière que c'est une espèce de poésie des arts martiaux, et moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que dans ce film-là, Wong Kar-wai a vraiment compris un aspect du kung-fu, en fait, et surtout du Wing Chun, qui est justement cette espèce d'intégration à la nature, de lenteur, de réflexion sur soi-même, etc. Finalement, quelque chose qu'on trouve souvent dans les arts martiaux. On a toujours l'impression que les arts martiaux, c'est Steven Seagal qui va casser bras et jambes.
Steven Seagal.
Ou Bruce Lee qui va mettre des coups de pied dans la gueule.
Tout de suite, les grands noms.
Tout de suite, les grands noms.
Référence.
Mais là, on est vraiment en dehors de cette espèce d'aspect très beauf, finalement, des arts martiaux. Ouais. Pour se retrouver dans quelque chose de très réfléchi avec un vrai fond derrière. Donc moi c'est un film que je peux vraiment conseiller aux amateurs d'arts martiaux, mais ceux qui connaissent un peu la philosophie, qui en ont un peu pratiqué et qui savent un peu de quoi il s'agit, pas les mecs qui aiment bien voir Jean-Claude Van Damme mettre des coups de pied retournés pendant trois quarts d'heure, quoi.
En tout cas, tu m'as donné envie d'aller le voir et je pense que je vais y aller très prochainement.
Petite note, Wong Kar-wai est toujours très fort pour ses BO. Celle-ci est encore une fois magnifique.
Super, bah, esthétisme, VO, je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus, en tout cas pour voir un bon film. On vous invite donc à aller le voir. Un grand merci à toi, Sylve, donc, pour cette petite critique d'Iron Man 3 et de Grandmaster.
J'ai pas fini.
Et tu nous réserves quoi d'autre ?
Mama.
Mama.
Que j'ai été voir hier.
Ou Mama.
Dont je ne comptais pas parler. Qui est un film d'Andrés Muschietti, un pote de ce réalisateur super connu, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Benicio del Toro, je crois,
ouais.
C'est ça. Hein.
Mm-hmm.
C'est un film d'horreur. Alors, je voulais en parler parce que, bon, moi, il m'a un peu déçu sur certains aspects, etc. Mais c'est un film dans lequel le fond est intéressant aussi. Alors, je ne vais pas m'étaler pendant des heures. Déjà, première chose, je conseille vraiment aux gens qui s'intéressent à ce film de ne surtout pas regarder la bande-annonce, qui est un spoil monumental. qui est vraiment...
je vois l'affiche. Ouais.
C'est juste horrible. Parce que dans la bande-annonce, on montre tout. Donc le film n'a plus aucun intérêt. C'est génial. Je sais pas qui a fait ça, mais on devrait lui casser les bras. Par contre, le film a vraiment une bonne grosse partie qui est très intéressante. La fin, qui l'est beaucoup moins, malheureusement, tombe vraiment dans des clichés, des choses comme ça. On est un peu dans une espèce d'ersatz de The Ring sur fond de réflexion psychologique du personnage de Jessica Chastain, qu'on avait déjà vu dans Tree of Life ou Zero Dark Thirty, qui sort fort de son registre ici, mais qui, comme d'hab, était éblouissante de crédibilité. On a vraiment une réflexion de la femme, en fait, c'est cette femme qui est une espèce de roqueuse complètement en dehors de la notion de maman ou quoi que ce soit, qui se retrouve en fait par la force des choses et par son copain en fait qu'elle aime, à devoir garder deux gamines en fait qui ont été des enfants, comment on appelle ça encore, des enfants, pas enfants...
Adoptés, maltraités, violés...
Non, tu sais, c'est
sauvage.
Voilà, enfants sauvages, c'est ça.
Sauvage.
En fait, c'est deux gamines qui, suite à un concours de circonstances, se retrouvent seules dans la forêt et on ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé, mais en gros, elles sont devenues des enfants sauvages, sans langage et ainsi de suite.
Ah,
et donc, tu as cette femme, en fait, qui est au milieu de ça, qui est une bonne femme, qui est contente quand elle n'est pas enceinte parce qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfants.
Uh-huh.
Elle est dans un groupe de rock, elle n'en a rien à faire de tout ça, qui se retrouve du jour au lendemain comme mère et qui à la base n'a pas spécialement envie de faire ça. C'est un peu sous-développé, mais c'est quand même sous-jacent, et ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on sort vraiment du canevas du film d'horreur un peu lourdingue, etc., même s'il y a pas mal de clichés qui reviennent. C'est dommage que ce soit un peu sous-exploité. Le personnage de Mama est survolé un petit peu comme dans The Ring, mais de façon beaucoup moins subtile, je trouve ça moins intéressant. Mais globalement, rien que pour la grosse première partie du film, voire même les trois quarts du film, le film vaut le coup, parce que non seulement il fait flipper, et pas qu'un peu, moi il y a des moments où j'ai fait des bonds sur mon siège, mais c'est pas lourd comme ça pouvait l'être dans Sinister ou des films comme ça, et en même temps j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une espèce de poésie, de quelque chose qui se dégageait derrière, qui est finalement très, très spécifique au cinéma d'horreur espagnol, parce qu'on avait déjà vu ça dans
Labyrinthe de Pan
ou L'Orphelinat. Je pensais plus à L'Orphelinat,
ouais, c'était sympathique.
Voilà, qui sont nettement meilleurs, hein, entendons-nous bien. Celui-ci, il est un peu bizarre, parce que quand je dis, moi j'ai un peu l'impression qu'ils ont tout foutu en l'air vers la fin, à vouloir trop en montrer, à vouloir trop démontrer, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir, donc si vous avez le choix entre plusieurs films et que vous savez pas trop quoi, celui-là est une bonne alternative.
Donc Mama qui est actuellement au cinéma, si je me trompe, ouais, j'ai vu l'affiche régulièrement.
Tout comme Iron Man et Grandmaster d'ailleurs.
Tout comme les deux autres titres également cités ce soir par Sylph. Un grand merci à toi, on va passer tout de suite, on reste dans le cinéma, avec deux focus sur deux trailers, et là c'est par Damien.
Voilà, là on parlait de films qui sont au cinéma, moi je vais parler de films qui sont pas encore au ciné, voire même normalement leur sortie est du style en novembre, décembre prochain, donc très très loin, mais voilà, je vais parler de deux films. Le premier qui est La Stratégie Ender. Alors pourquoi j'en parle, parce que le trailer est sorti il n'y a pas très très longtemps, ça commence à faire un peu de buzz autour, et d'ailleurs Sergio, si tu veux envoyer le trailer, on
fait
va
péter.
Voir tout de suite, fait péter
avec grand plaisir.
Ils connaissent nos stratégies, ils ont étudié nos faiblesses, et l'attaque des extraterrestres a failli nous anéantir.
Voilà, alors là, attention, on est tout de suite dans certains clichés, attention.
Mais c'est la voix du gars qui double Batman.
C'est surtout la voix d'Harrison Ford, je crois.
En français.
Moi, j'adore.
En français,
oui.
Survivre. Nous avons besoin d'un nouveau genre de soldats.
Et alors, attention, ils ont besoin d'un nouveau genre de soldats.
Un soldat qui n'a pas peur de ce qui nous effraie.
C'est avec Steven Seagal ?
Soldat que l'ennemi.
Ouais. Non, c'est pas avec Steven Seagal.
Nous avons besoin d'esprit comme le tien, Ender.
Voilà.
Il y a beaucoup d'explosions.
Alors, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de choses, il y a une voix très grave.
Mais tu sais qui c'est la voix là ? Je l'ai déjà entendue. En fait, c'est dans Monsters et compagnie. Mm-hmm. Il jouait le directeur. C'était la même. Enfin, il jouait.
Ah oui, c'est vrai.
C'était
c'est
vrai.
Ce doubleur-là. Enfin,
le mec tentaculaire, là.
Ouais, l'espèce d'araignée.
Poule, l'araignée crabe, comme ça, ouais. Je pensais qu'il glissait, mais en fait, non, il marche.
En tout cas, là, c'est la voix d'Harrison Ford, puisqu'il joue dans ce film. Alors, pourquoi je parle de La Stratégie Ender ? Parce que là, en écoutant et en regardant le trailer, tout de suite, on se dit, oh là 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 là, la grosse daube. Rien que le début, c'est. On se dit, mais c'est quoi ce truc ? Effectivement, ça pourrait être un film avec Steven Seagal
ou Bruce
Willis. Non, même pas. Avec Cyborg, là.
Ah, Van Damme.
Van Damme ou autre. Bah, tu vois,
on les a tous cités aujourd'hui.
Je crois que là, derrière. Non, et ça a l'air d'être vraiment mauvais. Alors, je crois. Le problème, c'est que les bandes annonces sont faites par les distributeurs, sont faites par les studios, et pas forcément par les créateurs et les réalisateurs. Ouais, et je pense que.
C'est comme je disais avec Mama, il faut surtout pas voir la bande annonce. Hein.
Et je pense que là c'est le gros problème de la bande annonce. Alors, bon, la stratégie Ender, c'est quoi ? C'est issu d'un bouquin d'Orson Scott Card. C'est un livre qui est sorti dans les années 70, d'après mes souvenirs.
85.
En 85 ?
Ouais, je suis sur Wikipédia, c'est pour ça que je te le dis.
Repris
d'une nouvelle en 77, en effet,
voilà, 77.
Publié dans un magazine.
La stratégie Ender, ou Ender's Game en anglais, c'est devenu rapidement un phénomène, puisqu'il a reçu le prix Hugo et le prix Nebula, ce qui est extrêmement rare, de recevoir les deux la même année. Derrière, Sean Scott Card a sorti La Voix des Morts l'année suivante, qui est la suite de La Stratégie Ender, et derrière, il a de nouveau eu le prix Nebula et le prix Hugo. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la science-fiction de empocher ces deux gros prix qui sont les plus gros prix de la littérature de science-fiction. Je vous conseille vraiment de lire La Stratégie Ender. C'est vraiment un super bouquin. C'est pas... alors, l'histoire, en deux mots, c'est dans le futur, en gros. Il y a des extraterrestres qui attaquent la planète Terre et on a failli y passer, quoi. En gros, c'est un peu comme au début de Starship Trooper. Il y a des espèces de créatures insectoïdes qui sont arrivées, qui s'appellent les Doriforts dans le bouquin. Et puis, on a failli réduire la Terre à néant. Coup de bol, on a réussi à les repousser comme on pouvait. Et comme évidemment ça se passe dans l'espace, on met un certain temps à arriver d'un côté comme de l'autre, etc. Et donc la Terre décide de créer de nouveaux généraux pour les armées. Et en fait, ils cherchent des surdoués. Et ils vont chercher des surdoués chez les enfants qu'ils vont complètement formater pour les faire travailler en fait comme sorte de généraux...
Stratège,
etc. Et donc, d'où le nom Stratégie Ender, d'ailleurs. Mais tout est vu, du point de vue des enfants, comme une sorte de jeu. D'où le nom en anglais Ender's Game. Et en fait, c'est un super bouquin qui montre toute la manipulation qu'on peut faire sur des enfants. Tout le côté politique que ça peut avoir derrière au niveau de la Terre, etc. Et c'est vraiment un très très chouette bouquin, surtout la suite qui devient très humaniste, notamment La Voix des Morts, etc. Je veux pas dévoiler la fin de l'histoire. Maintenant, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un très chouette bouquin. J'ai un peu peur par rapport à l'adaptation qui est prévue. Maintenant,
ça a l'air très bien.
Maintenant, quand même, quelques notions qui peuvent sauver le film. D'abord, le réalisateur, c'est Gavin Hood. Alors Gavin Hood, il a fait notamment Mon nom est Tsotsi. C'est un film, alors c'est un réalisateur sud-africain à la base, et en fait c'est l'histoire d'un gamin africain qui connaît même plus son nom, etc. C'est un enfant des rues, et à un moment il vole une voiture, et dans cette voiture il y a un bébé en fait, et donc c'est l'histoire de comment il va gérer ce truc là. Il a fait aussi X-Men Origins Wolverine. Alors moi je l'ai pas vu, mais Steve, tu me disais que c'était pas si mal
c'est
que ça.
C'est le premier ou pas, ou c'est le deuxième qui sort bientôt au ciné?
C'est celui de 2009.
Ah ouais. Bon, c'est un navet.
C'est un navet. Bon, bah voilà, c'est un navet, tant pis. mais voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser, parce qu'il était capable de faire quand même des films d'auteur, entre guillemets. Et apparemment, c'est un vrai fan de la stratégie Ender. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, sinon... L'avenir nous le dira. Comme acteur, il y a Harrison Ford, il y a Ben Kingsley, et il y a Asa Butterfield, plutôt. Celui qu'on a vu notamment dans Hugo Cabret, et puis dans Le Fils de Rambo.
Le Fils de Rambo.
C'est un très bon film, d'ailleurs, je le conseille si vous avez l'occasion de le voir.
Le Fils de Rambo ou
Rambo 3. Le Fils de Rambo, c'est un film de 2007, je vous conseille.
Bah, merde, pas, il est vraiment chouette.
Ouais, je me disais, c'est bizarre, il me semble que Rambo était gay.
Par contre, le problème, c'est que Ender est censé avoir 6 ans. Là, c'est un jeune de 15-16 ans, je crois, qu'il a à peu près, qui va l'incarner. J'ai un peu peur que le décalage qui est censé créer, justement, cette espèce de sourdoué, enfant sourdoué, ne joue pas. On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous conseille de lire le bouquin, c'est vraiment chouette. Et puis, je vais vous parler d'un autre trailer que j'ai découvert complètement par hasard, et là je me suis dit, chic, trop bien. C'est le trailer de The World's End. Alors, The World's End, c'est quoi? C'est un film d'Edgar Wright. Alors, Edgar Wright, vous savez qui c'est? Là, autour de la table?
Non, mais tu peux le dire à tous les auditeurs qui ne le savent pas.
Tous les auditeurs qui savent. Non, franchement, vous voyez pas qui c'est?
C'est le fils de James Wright?
Non, rien à voir. Non, c'est celui qui avait fait notamment Scott Pilgrim. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Qui avait fait Shaun of the Dead?
Mon Dieu,
oui. Shaun of the Dead.
Qui avait fait Hot Fuzz?
Non.
Ah si. Qui avait notamment réalisé la série Spaced?
Les taux se referment.
Spaced, d'ailleurs, si vous avez jamais vu, je vous conseille vraiment. C'est une série anglaise complètement barrée. Je vous conseille de regarder. C'est l'histoire de deux colocs, deux personnes qui cherchent un appartement à Londres, et comme ils finissent par trouver une annonce où il faut être un couple. Alors ils se disent, voilà, on va faire le couple. Évidemment, ils n'ont rien à voir ensemble. C'est très
les allumés en français.
Voilà, déjà. Non, ça vaut le coup, Spaced. Voilà. Et sinon, donc, il a fait une trilogie qui est avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End. Pour lui, ça fait partie d'une trilogie qu'il fait avec d'ailleurs Simon Pegg et Nick Frost, donc deux acteurs humoristes anglais, moi que j'aime beaucoup.
Après, Nick Frost, c'est chouette.
C'est un type d'humour très particulier. notamment Simon Pegg et Nick Frost, vous avez pu les voir dans Paul, l'histoire de l'extraterrestre là, qui arrive et tout, et qui a besoin qu'on le ramène à sa soucoupe spatiale. Moi, c'est complètement barré et c'est pas terrible, faut le dire.
C'est même une grosse bouse.
Mais voilà, moi j'aime bien surtout le travail de Edgar White avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Alors The World Ends, Shaun of the Dead, ça faisait le film de zombies. Hot Fuzz, c'est le film policier. Et là, dans The World End, c'est le film catastrophe.
Ah non.
Apparemment, c'est complètement barré. C'est genre une bande de copains qui, passé 40 ans, décident de refaire le périple des pubs qu'ils ont fait dans leur jeunesse à 20 ans, dans leur village d'origine. Et en fait, il s'avère que la population apparemment a été changée et tout, etc. J'en sais pas plus. Le trailer est complètement barré, mais voilà, je l'attends avec impatience. Je sais pas pour vous.
C'est vrai que les trois autres films qu'il a fait étaient vraiment pas mal.
Bon, eh bien, on passe tout de suite également à un petit test commun que vous avez fait tous ensemble. Et justement, on était The World's Ends. On passe à The Secret World.
Donc, on va parler de The Secret World, un jeu auquel on a joué à trois.
Oui.
Main
dans la main.
Tu fais bien le zombie qui mange.
J'ai essayé de faire le tout nous, mais bon,
il fait pas le zombie, il mange tout court.
Donc, The Secret World, c'est un MMORPG sur PC qui est sans abonnement depuis très peu de temps, qu'on trouve une trentaine d'euros et bradé à une quinzaine d'euros. C'est un MMORPG contemporain, ce qui est sa principale particularité, développé par les mecs qui avaient fait Edge of Conan, qui sont tristement connus pour les milliards de bugs de leur jeu. Ici, ils ont fait du bon boulot, enfin surtout peut-être parce qu'on y joue 9 mois après la sortie, et globalement c'est relativement absent. Bon, on va pas commencer à passer 10 heures sur le développement du jeu, qui finalement est un MMO relativement classique dans son fond et dans ses mécanismes de gameplay. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que c'est un MMO qui ne prend pas les joueurs pour des idiots qui cliquent sur des touches frénétiquement en se prenant pour des hardcore gamers, mais plutôt qui permettent de réfléchir et qui permettent de construire des scénarios un peu plus intelligents que ce qu'on peut voir habituellement dans les MMO. C'est-à-dire que là, il faut vraiment se prendre la tête, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment faire attention à tous les détails dans le décor, il faut vraiment faire attention à ce que les PNJ nous racontent. En fait, il utilise surtout un système qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle l'ARG, ce Alternative Reality Game, c'est-à-dire en fait qu'il intégré directement en jeu, il y a un browser internet qui permet de retrouver des informations sur internet, sachant que pas mal d'indices de missions des missions qu'on doit faire et des objectifs qu'on doit faire dans les quêtes, etc., ne se trouvent pas dans le jeu lui-même. On a des choses d'ailleurs assez...
Ce sont des vrais sites, hein. C'est un browser qui va vraiment chercher des vrais trucs.
Voilà.
Donc en dehors du jeu, on peut aller gratter les infos sur des sites qu'on a retrouvés dans le jeu. Quoi.
Et ça va même plus loin que ça, il faut carrément parfois aller chercher des programmes de traduction, des programmes pour décoder du morse. Moi je me suis retrouvé quand même à enregistrer un passage du jeu en fait sonore pour le ralentir après sur Premiere et le remettre sur un logiciel de morse, enfin un truc, je me suis dit ouais je vais le faire à l'ancienne, j'ai envie de voir si c'est vraiment possible, c'était relativement possible, bon j'y suis jamais arrivé, mais c'est parce que je suis nul, donc j'ai regardé la solution sur internet, mais je me suis dit au moins j'ai fait la démarche. Il y a des passages qu'on peut récupérer dans la Bible, dans le Coran, il y a des traductions d'hébreu, enfin il y a une quantité de trucs de pervers, d'éléments de quête qu'on voit rarement dans les jeux, même des jeux qui sont orientés vers ce type de jeu, des jeux d'aventure dans lesquels d'où des point and click, dans lesquels on fait un peu référence à ce genre de système, ne vont pas aussi loin. Donc je pense que c'est pour ça que Secret World est un jeu vraiment intéressant, d'autant plus que la mythologie du jeu est basée sur tout ce qui est littérature fantastique et romans d'horreur en fait qu'on a pu voir ces 100 dernières années, parce que moi j'ai trouvé des références à Edgar Allan Poe autant qu'à H.P. Lovecraft.
Oui, les Illuminati sont parmi nous.
Il y a des
Templiers, il y a plein de choses.
Il y a des choses qui sont reprises de complots internationaux, des choses comme ça. Donc c'est un jeu qui mélange un petit peu tout ce qui est mythologie entre guillemets contemporaine pour en faire un jeu assez unique, plutôt joli d'ailleurs, j'ai trouvé, avec une réalisation vraiment bien fichue. Et voilà, je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous qui avez joué un petit peu?
Au niveau... Moi, je fais beaucoup de PvE, donc je suis un petit peu allergique au PvP, toutes espèces de machins qui en découlent, enfin bon. Et moi, je m'y suis bien plu, parce que comme ça implique beaucoup le joueur en tant que joueur solo. Ça marche en groupe assez bien, j'ai pas été testé plus que ça. Toi, t'as eu plus de retours là-dessus que moi. Mais attends, je finis juste parce que comme ça, moi, j'ai pas des masses de choses à en dire. J'y ai joué vraiment comme un joueur débutant maintenant dans un jeu qui est déjà mature.
Comme un joueur de Guild Wars?
Non, pas du tout. Non, j'ai en général, quand je commence un MMO, j'essaye de faire abstraction des autres trucs pour pas être influencé, faire des comparaisons, ce qui est toujours une mauvaise idée. Et là, je dois dire que c'était intéressant. Par contre, j'ai un gros problème avec l'animation des personnages et les personnages en eux-mêmes. Parce que dans un MMO, moi, je trouve que c'est important. C'est quelque chose auquel tu investis quand même pas mal de temps. Et voir ton personnage est un élément assez important. Et là... Non. Par contre, le système de compétences était vraiment intéressant. Ça m'a rappelé un peu... assez tout début, Rhizome, avec la possibilité de pouvoir faire n'importe quoi. Si tu prends le temps de le monter, de changer de direction, tu peux aller vers quelque chose de complètement différent avec ton perso. Il n'y a pas d'importance au niveau, tellement d'importance au niveau de ton équipement. C'est quelque chose qui n'est pas essentiel. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas non plus le machin qui va faire la différence. En tout cas, en PvE, vu que je n'ai pas testé le PvP.
Ça a quand même beaucoup d'importance.
Ça a de l'importance, mais moi, je n'ai pas trouvé que ça faisait énormément de différence. Pourtant, j'ai essayé 3 classes différentes avec vraiment des choses différentes. J'ai monté un des personnages beaucoup plus haut que les autres. Oui et non, ça m'a pas paru...
C'est pas l'essentiel du jeu.
Mais je me suis bien marré. J'avoue que le coup d'aller un peu plus loin, d'aller demander aux gens, plutôt que d'aller tuer 6 loups et de te filer des points d'XP et une dague à la con, on te demande quand même, c'est l'exemple qui parle à tout le monde qui a déjà fait du MMO, ça va plus loin et tu sens qu'on te demande pas derrière en retour d'aller acheter des trucs avec tes sous pour arriver à avoir quelque chose de concret dans le jeu, parce que tu sens très bien que tu vas pas y arriver sans ça. Ils sont pas tombés dans ce panneau-là, malgré qu'il n'y ait plus d'abonnement. Ils ont enfin compris. Mais c'est Funcom. Et tu sens le Conan derrière. Tu sens qu'ils ont réutilisé beaucoup de Conan. Et par contre, pourquoi ? Un des trucs qui était chouette dans Conan, c'était le personnage, les mouvements du personnage, la manière dont tu combattais. J'ai trouvé les combats extrêmement mous.
En fait, c'est vraiment un jeu, je trouve, la principale particularité, contrairement à ce que tu disais, on peut y jouer tout seul, mais moi j'ai l'impression que c'est un jeu dans lequel il faut y jouer en équipe.
Ah, sinon, sans doute, oui.
Sinon, en fait, c'est pas que c'est mou, c'est que les ennemis sont très endurants, et on sent vraiment le côté, c'est pas facile, c'est même plutôt dur, voire carrément chiant, en fait, quand on joue tout seul. Et quand on joue en équipe, mais tu peux demander à Damien, avec qui on a fait quelques parties, machin, c'est très fluide, ça va très vite. C'est très agréable en fait. Et pour moi, c'est pas le même jeu quand on est seul et quand on est en groupe. D'autant plus que les missions d'enquête, comme ils disent, sont tellement tordues que vaut mieux être avec des potes parce que.
Deux têtes valent mieux qu'une.
Voilà. Ouais. Et même 3 ou 4. Hein.
Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis.
Mais je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est un jeu limite. Ça pourrait être un petit budget, malgré qu'il y a un suivi.
Quand même. Là, c'est le moteur graphique est quand même assez puissant. Il a de la gueule quand même, mine de rien. Même si effectivement, on peut critiquer certains aspects, même par rapport à des jeux qui ne sont pas des MMO, il a quand même de la gueule.
Il y a des belles choses.
Le monde semble profond et quand même, il y a beaucoup de choses. Après. C'est vrai que moi j'ai aimé un peu ce côté-là d'enquête et de quête un peu particulière où tu vas chercher à droite à gauche des indices, faut que t'aies écouté ce qu'on dit les PNJ, il faut que tu regardes les détails dans le décor, etc. Tu te dises, tiens, mais où est-ce qu'il y a des tableaux, où est-ce que j'ai vu des tableaux, ah ouais, il y en a à cet endroit-là, attends, c'est peut-être là que je dois aller pour savoir la suite, ou etc. Je me souviens d'une scène qui était absolument géniale où à un moment... Ça, c'était vraiment très, très drôle. On était... j'étais sur une enquête. Et à un moment, il y a un personnage qui se suicide dans une prison et qui dit, voilà, seul mon fantôme pourra vous donner la vérité ou je ne sais plus exactement le message, etc. Et on sait qu'il s'est suicidé entre 4 et 5 heures du matin. Et donc, moi, j'étais devant la prison, et la cellule, quoi. Et je me disais, mais je ne vois rien, je cherche. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Ah non, non, je vais pas dire de spoil. Attends. Et puis à ce moment-là, il y a un autre joueur qui arrive et qui, pareil, cherche comme moi et tout. Et il me dit, ouais, je trouve pas et tout. Et puis, bah, on se dit, attends, bah, c'est lui qui me dit, ah ouais, peut-être que, en fait, il faut attendre entre 4 et 5 heures du matin. À ce moment-là, le fantôme apparaît. Donc, bah, on reste, il était à peu près 3h30 du matin. Évidemment, le temps déroule plus vite, heureusement. Mais bon, quand même, ça prend du temps. Et donc, on reste comme ça, assis face à cette cellule, et on commence à discuter. Et on l'a joué complètement en roleplay, en fait, puisque lui était Illuminati, moi j'étais Dragon, et en fait, on s'est complètement pris dans le jeu. On est resté là pendant facilement un quart d'heure, 20 minutes en temps réel, à discuter, en attendant que ce fameux fantôme risque d'apparaître à un moment ou à un autre. Bah, c'était un très bon moment de jeu. Je dis pas si c'est la solution ou pas. Mais j'avoue que j'avais pas connu ça dans un MMO, parce que les trois quarts du temps, bah, c'est ou du bashing de monstres, etc. Maintenant, tout se vaut pas, tout n'est pas du même niveau, mais il y a un soin particulier au personnage, à l'animation, à l'introduction des quêtes, comme le gars qui est dans la casse,
ça paraît cohérent, etc. En fait. Il y a quelque chose de presque cohérent.
Presque, c'est bizarre, parce que c'est vrai qu'on a des univers complètement bizarroïdes qui se mélangent, et donc on se dit, oh, comment ça tient? Et ça tient parce qu'il y a ces cinématiques qui rendent cohérent le monde. Voilà.
Pour conclure, peut-être le modèle économique, vu qu'il est gratuit, est-ce qu'on doit acheter la boîte? Est-ce qu'il y a un store? Comment ça marche?
Juste acheter le jeu, c'est ce que je disais au début. Le jeu, il se trouve à une trentaine d'euros sur Steam ou sur Origin, mais Origin, on en a profité parce qu'il bradait les prix à une quinzaine d'euros. Mm-hmm. Maintenant, moi, c'est un jeu vraiment que je conseillerais aux gens qui apprécient le roleplay, qui apprécient une communauté qui est mature, qui apprécient un jeu dans lequel il y a un vrai fond. Étrangement, c'est un jeu qu'on pourrait conseiller aussi aux gens qui ont joué à World of Warcraft et qui aiment bien les défis, la difficulté des donjons, les choses comme ça, et le high level, parce qu'il y a des raids, il y a des choses comme ça. Mais bon, moi, je trouve quand même que c'est vraiment... aller sur ce jeu-là pour ça, ce serait, je vois pas l'intérêt. Mm-hmm. C'est vraiment pour cette histoire de quête, cette ambiance, cet univers, enfin, ce côté roleplay, et surtout le fait que ce soit un MMO contemporain, il y en a pas d'autres, et surtout aussi le fait que ce soit un MMO qui n'ait eu aucun succès. Ce qui est vraiment triste, parce que
ça, je le découvre.
Il est bien plus intéressant que beaucoup d'autres MMO qui sont sortis dernièrement.
Les serveurs sont pas désertés, hein, attention.
Ouais, il y a du monde. Hein.
Ils ont un site en tout cas très complet, www.thesecretworld.com, et c'est en français également, anglais, français, allemand, et puis je suppose qu'on retrouvera le lien sur le carnivore également.
Tout à fait.
Voilà, donc un chouette petit MMO RPG que j'ai hâte d'essayer également. Je suppose que ce n'est pas sur Mac, mais en tout cas, voilà, pour tous les amateurs de jeux vidéo, je suppose que vous êtes équipés d'un bon PC, donc n'hésitez pas. The Secret World. Merci les amis. On reste dans le jeu vidéo et plutôt dans le jeu généraliste. Vous avez tous un jour ou l'autre lu un livre dont vous êtes le héros, et Luc revient justement, remet un petit peu au goût du jour cette tendance d'époque. Luc, dis-nous tout.
Oui, enfin, on a tous lu je crois que c'est une génération quand même. Je sais pas si les plus jeunes...
plus jeunes, je pense pas.
Qui aient connu ça, parce que c'est quand même un truc d'une bonne, voire deux générations... De Jones en arrière.
Bah disons que ça a fleuri dans les années 80.
C'est dans les années 80, mais il fallait déjà être en âge de pouvoir lire ce genre de livres, parce que il fallait déjà être un petit peu s'intéresser un petit peu aux jeux de rôle, des choses comme ça, parce que c'était pas la littérature Martine à la plage, quoi. Et bien ça revient. Enfin, c'est reviendu, comme on dit, depuis quelques mois déjà, parce que c'était maintenant une application pour iPhone et iPad. À ma connaissance, pour l'instant, uniquement sur le support iOS. Je pense qu'ils ont parlé de faire une application Android, une adaptation Android. Je sais pas où ça en est, mais donc j'y ai joué un petit peu, et c'est très rigolo de retrouver en fait ici en l'occurrence le premier de la série qu'ils ont fait, qui est donc de Steve Jackson, qui est quand même un bon nom bien connu dans le jeu de rôle à plein de niveaux. Mais il avait notamment fait toute une série de livres dont vous êtes le héros, qui nous a plus ou moins tous marqués, si on s'était intéressé à ça. Et là, on se retrouve avec The House of Hell, qui est donc, je pense, son premier. Et c'est assez amusant d'y rejouer, parce qu'on retrouve les textes originaux. C'est en anglais, hein, malheureusement. Il n'y a pas encore de traduction. C'est en cours. Ça va arriver dans plusieurs langues, et on y rejoue comme on jouait au bon vieux bouquin à l'époque, c'est-à-dire on a des dés avec un moteur physique, entre guillemets, donc on tire, les jets de dés sont demandés à certains moments clés où il faut prendre des actions, choisir des actions à faire. Et on retrouve à ce moment-là les stats de base qu'on définit au début du jeu. On a un ou deux, voire trois modes de difficulté, ça dépend. Et notamment le mode de difficulté à la vraie, où on peut cheater, entre guillemets, en sauvegardant une position. C'est un peu comme on mettait son doigt sur la page, en disant, vous allez à gauche, vous allez à droite, on mettait son doigt, à droite vous êtes mort, on revient, je vais aller à gauche. Et donc il y a toujours moyen de le faire. Et c'est assez plaisant parce qu'on retrouve les illustrations agrémenté maintenant de une petite remise, un petit rafraîchissement, donc parfois des animations, des remises en couleur où ils ont repeint dessus la palette graphique. Ils ont parfois animé certaines choses. Il y a une ambiance musicale qu'on peut supprimer si on veut virer ça, comme ça peut être perturbant pour certaines personnes. Et c'est bien fait. Franchement, c'est rigolo. C'est 5,49€ sur l'App Store, je crois. Et
par bouquin ?
Par bouquin. Mmh. Il y en a 8, je pense, pour l'instant. Et c'est un peu cher, je trouve, parce que bon, finalement, c'est pas un vrai jeu.
Ça coûte combien un bouquet en général sur l'App Store ?
Un livre, un livre numérique.
Ouais.
J'en ai jamais acheté. Je lis pas sur écran.
Ah, donc il faut voir combien ça coûte. Si ça coûte le même prix, ça va.
Non, je parlais par rapport au vrai livre. par rapport à un vrai livre. Moi, je trouve que pour une application comme... Enfin, ok, il y a l'interactivité, ok, il y a la musique, ok, il y a des choses qui ont été refaites, mais est-ce que c'est la même chose qu'un livre ? Moi, je ne trouve pas. Il n'y a pas ce côté, j'ai 5 minutes, j'essaye d'aller plus loin, je reviens. Si on a son iPhone, c'est peut-être différent, mais on n'a pas le même réflexe. C'est pas la même chose. C'est la même chose qu'avec un livre. Entre un livre et un e-book, on n'a pas les mêmes réflexes, il n'y a rien à faire, quoi. C'est comme ça, et je pense que je ne me trompe pas. En général, on ne sort pas un bouquin comme on sort une tablette, quoi. Donc, pour moi, c'est intéressant si on n'a pas connu les livres, ou si on a envie d'en acheter un pour voir si c'est revivre un peu les trucs de l'époque, parce que c'est la même chose, hein, c'est les mêmes textes, ils ont rien touché, ils ont juste rafraîchi le truc.
Ça a pas l'odeur des...
Non. Puis le bout des pages, il y a pas des traces de chocolat dessus comme quand j'étais petit.
Ouais, ouais. Mais je suis sûr qu'on en trouve chez Pêle-Mêle encore, non ?
Probablement.
Oui, on en trouve. Oui.
On en trouve dans les bibliothèques.
Est-ce que parce que bon, c'est vrai qu'il y a le côté bouquin qui était agréable, etc. Mais il y avait un autre côté, c'est qu'il fallait avoir CD, il fallait avoir un crayon.
J'ai jamais fait un bouquin dont vous êtes le héros avec des dés.
Moi non plus. C'était des choix en fin de paragraphe qui t'emmenaient vers.
En fait, il y avait effectivement des
combats. Il y en avait plein.
Il fallait choisir, en fait. C'était que du choix. Ça,
ici, il y a des vraies rencontres avec des monstres pour faire général. Et alors, il y a une jauge de peur qui descend, et quand on arrive à zéro, on claque, quoi. Donc, et tout ça se fait au jet de dés. Et alors, il y a des paramètres, hein, comme un jeu de rôle de base, on va dire. Donc, il y a un tirage au début, il faut avoir des dés. Pour celui-là, je me souviens que j'utilisais des dés aussi, quoi. Mais c'est sûr que si on fait un livre dont vous êtes le héros en vrai livre, bon, ben on sait ce qu'on va faire.
Oui, oui, tout à fait, on sait ce qu'on va faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, quelque part, c'est quand même pratique parce qu'il y a toute l'assistance du jet de dés, de la feuille de perso,
c'est
du machin.
C'est une expérience différente. Hein. Mm-hmm.
Quelque part, comme tu disais, on ne sort pas un bouquin comme la tablette, mais à la limite, tu pars en train, tu sais que tu as 2 heures devant toi. Tu prends de la tablette, alors sinon, tu as dû prévoir de prendre tes dés, stylo, le machin.
Pour revenir à ce que disait Sylv, justement, c'est au-dessus de la moyenne un petit peu des prix qu'on a sur l'App Store. En moyenne, ça tourne autour des 2€ et quelques, et les plus onéreux que je vois sont à 4,49€. Donc là, on est à 5,49€.
On est un peu au-dessus de la moyenne.
Oui, autour des 5 et des poussières. Donc voilà.
Ils ont fait des autres bouquins. Il y en a dans des styles plus futuristes et des choses comme ça. Notamment, il y en a un gratuit qu'on peut pécho. C'est Infinite Universe. Alors, moi, je l'ai chopé en gratos parce que c'était... j'étais peut-être tombé au bon moment. Mais peut-être. Je pense qu'il est toujours disponible pour avoir un aperçu, en tout cas, de ce que ça peut donner. Il y a la démo qui est évidemment toujours téléchargeable gratuitement. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai refait l'histoire, je suis allé jusqu'au bout. J'ai triché, comme avant. J'ai retrouvé des trucs...
Ça fait partie du plaisir intégral.
Évidemment, ici, je l'ai fait en anglais. À l'époque, je l'avais fait en français, donc il y a certains trucs... Mais je me suis souvenu de certains passages. Je me suis souvenu, notamment, du tout début, quand on arrive dans le manoir, avec l'accueil du gars qui ouvre la porte, peut faire le tour pour aller espionner des conversations. Je me souviens de ce truc-là, ça m'a fait rire de le retrouver. Maintenant, évidemment... J'étais pas dérangé par mon fils de 2 ans et demi qui avait envie d'aller manger. À l'époque, j'étais un peu plus dans le bouquin que quand j'étais ici. Donc, ça permet de le reprendre au fur et à mesure, de bookmarker des emplacements et tout ça. Moi, je vous le conseille pour le découverte, pour le fun. Et puis, si vous avez envie de continuer, de vous refaire votre collègue, il y en a 8 pour l'instant. Quoi.
Ou sinon, dans une boutique d'occasion.
Une boutique d'occasion. Donner une seconde vie
pour quelques dizaines de cents, même pas, à mon avis.
Voilà. À mon avis, pour le même prix, t'en as 4.
Ah, mais clairement.
Même plus. Parce que des petits bouquins comme ça, ouais, ça coûte vraiment plus du tout quoi, dans les trucs d'occasion.
Ou alors à la bibliothèque.
Ouais, les bibliothèques, 6 ans, non. Ouais. Mais le côté petite surcouche, on va dire interactivité tactile, ça peut être cool.
Il y a moyen de il y a une version où on peut revoir le livre comme à l'époque. Donc ils ont pas repassé au-dessus, les illustrations, ils ont rien rajouté.
Comme Monkey Island.
Ouais.
Pas mal.
Voilà.
Pas mal.
Comme avant.
Bon, ouais, comme d'habitude, tous les liens sur le blog, donc dans l'article résumant un petit peu ce podcast. On passe à la suite. Et Damien, tu vas nous parler justement d'un bouquin qui te reste un petit peu sur les lèvres depuis pas mal de semaines déjà, tu nous en parles, c'est Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz.
Ah oui, alors je vais pas vous parler d'un bouquin, ni de deux bouquins, mais de trois bouquins.
De 27 bouquins.
Attends, on avait dit quoi, hors antenne?
Non, 10 minutes par bouquin, je vous fais.
Donc je peux faire 30 minutes.
Non, non. Alors, je vais vous parler du Puits des Mémoires. Et effectivement, c'est trois tomes maintenant, l'histoire est terminée, donc il y a les trois tomes qui sont sortis. Le dernier est sorti en mars dernier, donc on est en pleine actualité. Et je vais vous raconter un peu. Alors d'abord, c'est un livre d'Heroic Fantasy. Donc l'Heroic Fantasy, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est en gros... c'est en gros Tolkien, etc. Mais il y a énormément d'écrivains qui se sont frottés au style et donc il y a pas mal, c'est surtout un style très anglo-saxon et là pour une fois c'est un petit français qui s'y colle parce que Gabriel Katz, comme son nom ne l'indique pas, c'est un français et il a commencé par ses premiers bouquins en son nom. Donc il est à la base c'est un nègre, il a écrit plus d'une trentaine de bouquins au nom de d'autres personnes et là voilà, il s'est décidé à écrire une histoire d'Heroic Fantasy. Pourquoi? Parce que c'est un fan d'abord d'Heroic Fantasy mais aussi de jeux de rôle et c'est une aventure de jeu de rôle qu'il a transcrit en bouquin. Alors ça c'est généralement synonyme de très mauvais bouquin, soyons clairs. Les rares fois où j'ai lu ce genre de choses, c'était très mauvais. Et là, c'est une bonne surprise parce que ce n'est pas ce que j'ai lu de meilleur en Heroic Fantasy. On est loin de l'île de G de Grimbert ou du David Eddings ou des choses dans ce genre-là. Mais c'est tout à fait honnête et c'est très plaisant à lire et ça se lit très bien. Alors, c'est quoi le Puits des Mémoires?
Mais oui, c'est quoi?
C'est quoi? En fait, en gros, c'est trois hommes qui se réveillent dans les débris d'un chariot. L'équipage en fait est tombé dans un ravin et ils se révèlent amnésiques. Donc ils se souviennent de rien, ils savent pas pourquoi ils sont là, etc. Alors c'est un départ hyper...
Ça c'est original.
Voilà, c'est un départ hyper super classique. Hyper classique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces trois personnages vont s'inventer une vie ensemble et vont essayer de se retrouver et de savoir qu'est-ce que je suis, etc. Et c'est là où l'amnésie devient intéressante, c'est que contrairement à la plupart des autres bouquins où il y a l'amnésie, il essaye de découvrir qui il est, etc., etc. En fait, ces personnages vont quelque part se réinventer à travers cette amnésie. Alors, en fait, ils sont poursuivis. Rapidement, ils le découvrent. Ils sont poursuivis par un empire situé au nord. Et ils sont traqués, ils sont obligés de se cacher, etc. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est bien écrit. C'est assez attelant parce que, le deuxième tome, je crois que j'avais regardé, il y a 57 chapitres. Donc, en fait, les chapitres sont assez courts. Se terminent quasiment toujours avec un petit un
suspense, hein.
oui à chaque fois il y a du suspense, c'est comme à la fin d'un épisode de série ou quoi que ce soit. D'ailleurs il a travaillé en tant que scénariste de série,
pas un cliffhanger.
Un cliffhanger, voilà. Merci. Wow. Merci.
En tant que scénariste de série sous le soleil.
Sous le soleil, voilà.
Il faut le dire.
Non, mais ça se sent dans la construction. Alors moi, au début, quand je l'ai lu, je me suis dit oui, c'est sympa, c'est bien écrit, voilà. Et on a envie de savoir la suite de ces personnages parce qu'ils deviennent très attachants. Et puis j'ai lu un petit peu de qui était ce Gabriel Katz. Alors j'ai découvert qu'en fait, il a écrit ses bouquins en 2 mois.
à peu près, je crois. Donc très très rapidement.
Les trois ou un seul?
Alors un seul. En gros, à chaque fois, il a mis 2 mois à écrire chaque bouquin, quoi. Ce qui est très rapide parce que c'est des bons pavés. Alors à la base, c'est une histoire qu'il a fait avec des joueurs. On imagine bien la partie de jeu de rôle derrière, et ça, je pense que ça aurait pu être sympa. D'ailleurs, à la limite, vous pouvez la lire et l'adapter pour faire une partie de jeu de rôle à vos copains. Parce que c'est un bon départ, amnésique, dans un monde qu'ils connaissent pas, c'est super chouette à
pouvoir faire. Il y a moyen de tout faire.
Il y a moyen de tout faire, voilà. L'histoire n'est pas si évidente que ça, parce qu'effectivement, le départ de l'amnésie, on se dit, ok, c'est facile et
on
tout.
On se doute que si t'as bien aimé, c'est pas que ça.
Voilà, c'est pas que ça. maintenant, on est, comme je disais, on est loin d'un scénario à l'île d'Oji de Préen Grimbert. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez l'occasion, mais en tout cas c'est un bon début, un bon premier scénario. Il faut savoir qu'il continue. Alors je crois qu'il va sortir un autre bouquin en septembre, donc a priori il est bien lancé pour continuer.
Toujours là-dessus ou rien?
Alors c'est plus la même histoire, mais ça se passe dans le même monde. Apparemment bien plus au sud. Je crois que ça s'appelle La Reine de la Guerre ou un truc genre là.
C'est l'histoire de 4 gars qui
4 gars qui deviennent abdésiques, etc. Non. Mais vraiment, on vit avec ces bouquins. C'est chouette à lire, c'est rapide, c'est efficace.
Tu conseilles?
Voilà, je conseille avec plaisir. Maintenant, vous pouvez attendre, soit les acheter d'occasion, soit parce que là, ça fait 16€ le tome, ça fait un peu cher.
Ils sont pas encore en format poche?
Non.
Ah bah oui.
Mais ils viennent de sortir. Voilà, mais avec plaisir. Sinon, ils existent en e-book aussi. Voilà.
Ah ben voilà. Je crois qu'on parlera un jour ou l'autre des e-books. Je crois qu'il y a des avis assez différents dans la salle. Voilà, donc les pompons, que je ne me trompe pas, sur le nom de l'auteur, c'est de Gabriel Katz. Et donc, on parlait bien des puits des mémoires à trouver chez tous les libraires. Si vous êtes sur Bruxelles, je ne vous donne pas les adresses. Hein, vous les connaissez. Et ailleurs, fouillez un petit peu sur le web également, je suppose.
Voilà, ça vaut le coup de l'aider un peu, parce que c'est quand même assez rare des auteurs d'Heroic Fantasy.
Ah, autant l'acheter neuf alors.
Oui, dans ces cas-là, évidemment. Si c'est un acte militant, moi j'ai acheté les 3.
Acte militant.
Voilà. Quelque part, des fois, on en est là. Hein.
Et oui. Allez, merci à toi, Damien. Et on termine donc ce 5e numéro du podcast de L'Œil Carnivore, pardon, avec un petit peu de musique. Angel, c'était un groupe de Trent Reznor et de sa femme, Sylph.
Oui, voilà. Alors, je voulais en parler parce que c'est un groupe qui est un peu méconnu et que je trouve assez extraordinaire. Qui est effectivement un groupe de Trent Reznor, donc le gars qui était bien connu pour le groupe Nine Inch Nails, qui est très connu aussi pour les BO de Millennium et Social Network, qui est un peu son boulot dernièrement. En fait, c'est un petit peu le bonhomme qui touche un petit peu à tout. Je vais pas commencer à énumérer tout ce qu'il a fait, mais c'est un sacré monsieur. Il a eu notamment un nombre de prix, c'est complètement hallucinant. Je pense que c'est un des gars les plus nominés et les plus primés en fait de l'histoire de la musique.
Ah bon?
Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches sur lui, parce qu'en fait, il est pas très connu. En fait, c'est quelqu'un qui est surtout connu parce qu'il a beaucoup travaillé sur la scène indus et électro. Il a même fait de la techno d'ailleurs, des choses comme ça. Et là, en fait, il revient avec.
Il a travaillé avec Bowie aussi.
Il a travaillé avec Bowie, c'est un ami de Bowie d'ailleurs, je crois. Et donc voilà. Je vais pas, comme je disais, je connais pas sa BO par cœur, donc je vais pas venir là-dessus. Mais donc, en 2010, en fait, j'étais en train de bosser sur un projet, je suis tombé là-dessus par hasard sur YouTube, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore un bazar de gothique foireux. En fait, j'ai écouté, j'ai adoré. Et donc, en fait, c'est un groupe qu'il a fait avec sa femme. qui s'appelle Marie Queen Malo, je sais pas quoi. qui est en fait une ancienne de une ancienne chanteuse d'Atticus Ross, pour ceux qui connaissent. Qui est d'ailleurs une très jolie femme pour la même occasion. Et donc sinon ils ont travaillé sur ce projet avec Rob Sheridan, qui est un autre monsieur assez connu de la scène indus de l'époque et qui est à l'origine de pas mal de projets actuels qui sont fort intéressants. Je vais pas m'éterniser sur le groupe, hein. Je pense qu'il vaut mieux écouter plutôt que de longs discours sur la musique. Il y a deux albums qui sont sortis. Donc le premier qui s'appelle How to Destroy Angel, qui est sorti en 2010, et Unnomen qui est sorti en 2012. Et cette année-ci, ils ressortent un nouvel album qui s'appelle Welcome to Oblivion. Et donc voilà, le dernier clip est assez étrange d'ailleurs, pour ceux qui sont tombés dessus. Une espèce d'histoire bizarre, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe. Ils sont perdus dans les montagnes, c'est en caméra infrarouge, c'est très très étrange. Comme vous pouvez l'entendre ici dans la musique, là, ça, c'est très volatile, comme ça, je ne sais pas comment je pourrais dire.
Moi, ça m'a fait penser au début à du Massive Attack, mais vraiment dans les rythmes très lents, un petit peu trip-hop et compagnie.
Il y a un petit peu de ça, ça reprend un petit peu à gauche à droite sur fond de musique électro-indus, c'est assez curieux, je trouve que c'est un peu un des seuls groupes un peu comme ça à l'heure actuelle, même si je trouve que le dernier album Third de Portiched reprenait un peu certains rythmes dans le même genre, se dirigeait plus vers ça.
Mais c'est, ça fait clairement penser à tout un courant de musique des années 90.
Mais l'indus.
Oui, l'indus, mais même trip-hop, etc. Parce que le trip-hop s'est influencé de cette partie-là. C'était une partie industrielle, entre guillemets, du hip-hop, etc. Donc, et là, c'est clair qu'avec avec ce groupe-là, on retrouve des sonorités. Moi, je revis, entre guillemets, une partie de mon adolescence en écoutant ça.
Est-ce qu'il y a des morceaux qui sont radicalement différents de ce qu'on vient d'écouter, en termes de style?
C'est bizarre, parce que bon, Reznor, il a vraiment son style à lui, quoi. Donc, comme c'est lui qui compose la cycle de fond, on reconnaît toujours un. Enfin, moi, à force d'avoir écouté ce qu'il faisait, je trouve qu'on rejoint toujours un petit peu le même genre de truc. C'est loin d'être une critique, hein, parce qu'il a une façon de composer qui est vraiment très intéressante. Maintenant, oui, on est toujours un peu dans cette espèce d'ambiance un peu particulière, malgré que j'ai pas écouté le dernier album et que le dernier clip était un peu différent. Mais en même temps, je pense que c'est. Enfin, ils n'ont pas encore assez d'albums derrière eux, je pense, pour commencer vraiment à switcher ou à faire des choses différentes. Il faut déjà qu'ils intègrent un petit peu ce qu'ils sont en train de créer. Et,
Donc, en tout cas, si on aime ce qu'on vient d'écouter, c'est ce qu'il y a sur l'album, quoi.
C'est ce qu'il y a sur l'album, c'est ce qu'il y a sur le deuxième album, et on verra avec le troisième album. J'en reparlerai peut-être ultérieurement.
Sympa.
Donc.
Écoute, je vais m'écouter de ce pas How to Destroy Angels dans ma bagnole en rentrant à la maison. Ça a l'air assez sympathique. Donc, mine de rien. Voilà, on a appris pas mal ce soir.
Comme à chaque fois, d'ailleurs.
Comme à chaque fois, tout à fait, tout à fait. Et donc, comme on a parlé de beaucoup de choses, encore une fois, je vous renvoie vers le blog de l'œil carnivore, sur lequel on remet tous les liens. Et puis, vous pouvez écouter ça à volonté, vu que c'est du podcast, c'est pas du direct. Pas pour le moment, du moins. Voilà donc qui concluait ce cinquième numéro déjà. Vous rattrapez tout doucement le podcast phare de ce studio qui en est un petit multiple de 5. Un truc pour finir, pour conclure, les amis, peut-être, Damien, sur l'actualité du site, sur ce qui est à venir, sur les grosses évolutions, mis à part qu'on va essayer en effet de passer en direct, en diffusion directe.
Voilà, il y a une première chose, n'hésitez pas à participer, à commenter les podcasts, c'est toujours sympa d'avoir un petit coucou et vos avis, ça c'est la première chose. Deuxième chose, l'œil carnivore, évidemment, on est trois fondateurs, mais il y a plein de gens qui sont venus régulièrement écrire des articles, donner des avis et autres.
Pour n'hésitez le meilleur pas. Et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire, mais il y a des fois avec des drôles de surprises. Alors, n'hésitez pas, venez participer. Franchement, vous avez un truc à faire partager. Voilà, avec le plaisir, venez, proposez-nous des articles.
Passez leur moon.
Ça a traumatisé Sylph, là, c'est clair. Non, mais en dehors de ça, c'est vrai que n'hésitez pas à venir et à participer. On remercie tous ceux qui, sur Facebook et autres, suivent notre actualité.
Suivent déjà, oui.
Voilà, ça c'est sympa. Et puis à bientôt pour un sixième épisode. On essaiera d'être de faire encore pire que celui-là, de rallonger, non. Merci en tout cas à vous d'avoir écouté.
Si vous avez envie de nous faire, qu'on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. et voir ce que nous on en a pensé. Faut pas hésiter non plus.
Sinon, faut nous verser de l'argent aussi.
Et vous pouvez évidemment nous verser plein d'argent.
Ah, mais ouvrez un bouton dedans, donc, ça marche.
Donc, mon numéro de compte.
Il y a plein de bières, nous, comme ça.
Mon numéro de compte, c'est donc.
Voilà, voilà.
Faut pas hésiter, vous savez, on est bénévole.
Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de faire des podcasts et ça fait plaisir d'être écouté. Donc,
bah, surtout, en effet, d'avoir du retour parce que finalement, on produit ça pour des gens et pas juste pour nous, quoi. C'est pas plus mal. Allez, on se retrouve
sur iTunes d'ailleurs.
Ah,
enfin.
Fantastique, fantastique. Et donc de mon côté, ben, je vous réserve quelques petites surprises et que le studio a fait la prochaine étape, donc de passer à la connexion web. On va découvrir les internets. Oulala. Donc de diffuser tout ça en direct, de vous donner une porte également, de commenter et d'écouter en direct l'enregistrement des émissions avec tous les aléas que ça inclut. Et donc voilà, ça c'est dans les émissions à venir. À quand? À très bientôt.
À tout, oui, bientôt. À tout bientôt.
Au prochain.
Ciao, ciao.
Ciao. We'll be right back.